Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais ? Tu sais exactement si ce que tu es en train de faire a du sens pour toi. Tu le sais au fond de toi.
Cette semaine sur InPower, j'ai le plaisir d'accueillir Maud Ankaoua, écrivaine. Kilomètre zéro, respire, plus jamais sans moi. Les livres de Maud se sont écoulés à plusieurs millions d'exemplaires.
Comment écrire un livre ? Impossible, vous trouverez jamais un éditeur, les éditeurs sont des escrocs, enfin bon. Et c'est non, parce que j'ai pas d'éditeur. Donc je vais voir le responsable, et c'est non, parce que j'ai pas d'éditeur. C'est pas parce qu'il y a un non, c'est pas parce qu'il y a... J'ai eu 33 noms avant d'avoir un oui.
Ah, donc au début, t'as vendu tes livres toi-même.
Tout le monde peut aller vers ce qui est juste pour lui.
Est-ce que t'es déjà tombée et ça a été vraiment difficile pour toi de te relever ?
1000 fois.
Pourtant, Maud est loin d'être écrivaine née, elle passe les 20 premières années de sa carrière dans le monde de la finance, la preuve qu'il est toujours possible de se réinventer.
Mais je me rends compte que finalement, je peux me payer tout ce que je veux, mais je suis pas heureuse. Mais qui je suis vraiment ? Ben, je sais plus. La seule chose que je sais, c'est que je veux être libre, je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir rencontrer des peuples différents. Et donc j'ai pris le temps, parce que je considère qu'on peut faire tous les métiers, il suffit simplement de se donner les moyens.
Qu'est-ce que tu ramènes avec toi dans ton bagage ? Elle nous partage dans cet épisode de précieux conseils sur les relations au travail, sur la connaissance de soi et la confiance en soi.
Ça demande beaucoup de sagesse en fait, tout ça je trouve.
Ça demande de la pratique, mais t'as tout dit, tout tient dans la motivation. Réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé, c'est tout.
Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Maud Ankaoua.
Vous allez rire si vous nous regardez sur YouTube, vous n'avez pas l'habitude de me voir aussi apprêtée, mais aujourd'hui, c'est un grand jour, aujourd'hui c'est les 5 ans du podcast, donc il y a 5 ans on sortait le premier épisode, et du coup j'organise un dîner avec voilà, des invités pour célébrer tout ça, et l'agenda a fait que, en fait, comme on avait déjà scalé le podcast pas mal de temps en avance, que toi tu n'es pas basée à Paris. En fait, j'avais même pas encore calé, finaliser la date du podcast. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir être maquillée pour l'événement et pour cet épisode. Donc, voilà.
Merci à toi de me mettre à l'aise. Parce qu'effectivement, je suis pas arrivée maquillée comme toi, mais t'es très jolie. Et je suis pas forcément à la hauteur de ton maquillage, mais ça me fait très plaisir d'être là pour les 5 ans.
De toute façon, les gens nous écoutent plus qu'ils ne nous regardent. Donc, je suis obligée de le préciser parce qu'à mon avis, les gens vraiment ne vont pas me reconnaître sinon. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va parler de toi. On va parler de tes romans, on va parler de développement personnel, de ta philosophie de vie. Avant de parler de tout ça, écoute, je te propose de te présenter de la façon dont tu le souhaites. C'est la première question que je pose à tous mes invités.
Ah, c'est une question à la fois banale et à la fois très difficile, parce que se présenter par son métier, par son statut, par son sexe, par son lieu de vie, etc., c'est assez simple. C'est en ça que ça pourrait être banal. Moi, j'ai envie de dire simplement, je suis un être humain qui chemine et qui avance et qui a envie de partager quelques clés qui m'ont servi à grandir. J'en suis là.
C'est déjà pas mal. Qui aide des gens. Écoute, il y a quelque chose qui m'a interpellée quand j'ai regardé un peu ton parcours. Et même encore, quand on tape ton nom aujourd'hui sur Internet, ce qui apparaît, c'est conseillère financière et écrivaine française. Et en fait, moi, ayant juste lu de tes livres, je n'avais aucune idée du fait que tu étais conseillère financière. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue. Tu vois, en lisant, donc c'est Kilomètre Zéro ou Plus Jamais Sans Moi, à aucun moment... Enfin, le monde de l'entreprise transparaît un peu. On se doute que tu as eu un chemin dans ce sens-là, mais c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, ça me paraissait presque antinomique d'être conseillère financière et de parler de développement personnel.
Et pourtant, je pense que c'est la clé de la réussite en entreprise. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas la conscience de ses propres réactions n'ira jamais au-delà des limites de ses peurs. C'est-à-dire que si tu veux grandir en entreprise, si tu veux évoluer et faire évoluer une entreprise, il va falloir que tu dépasses tes petits dossiers personnels, c'est-à-dire tes peurs, ce qui entrave ta vision des choses. Et forcément, on a notre carte du monde avec notre expérience, notre éducation, etc. Et donc, c'est limité à ça, jusqu'au moment où finalement, on prend les choses par un autre angle et on se rend compte que finalement, il y a peut-être d'autres choses à découvrir. Et dès que tu lâches... ses peurs, dès que tu dépasses en tout cas ses peurs, eh bien naturellement tu vas faire monter de la même façon ton entreprise.
C'est vrai, mais tu vois, moi je me disais, le monde de la finance est assez opposé au monde du développement personnel ou de la recherche du bonheur. On n'est pas poussé à chercher la même chose, quoi. Est-ce que pour toi ça a toujours cohabité? Ou est-ce qu'à un moment, tu as eu une forme de révélation ? Parce que je connais des gens proches qui bossent dans la finance et ils ne se posent pas la question vraiment de s'ils ont un mode de vie équilibré, si tu vois, ils arrivent à se détacher de leurs pensées, à juste observer. Enfin, tout ce que tu partages dans tes ouvrages est assez étranger, je trouve, au monde de la finance qui est plus un monde où la performance prime sur l'épanouissement.
Alors, pour répondre à ta question, effectivement, moi, je m'y intéresse depuis toujours, puisque pour moi, le monde de l'entreprise, c'est avant tout un monde d'êtres humains. Ça n'empêche qu'effectivement, j'ai fait mes formations en finance et que j'ai travaillé toute ma vie dans la stratégie d'entreprise, qui prend racine dans la finance. Mais là encore, quelqu'un qui ne comprendrait pas qu'une entreprise, c'est avant tout des êtres humains, elle va être limitée à une rentabilité court terme, qui peut fonctionner d'ailleurs et qui fonctionne plutôt bien à court terme, mais qui ne fonctionnera jamais à long terme. Donc, non seulement, à mon sens, ça cohabite, mais c'est une des clés essentielles de la réussite en entreprise.
Et qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité t'orienter dans le milieu de la finance ?
Alors peut-être des opportunités, parce que en fait, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Donc, comme beaucoup d'étudiants, tu fais des études. Moi, je me suis dit, la seule chose que je sais, c'est que je veux être libre. Je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir rencontrer des peuples différents, je veux pouvoir comprendre ce qui se passe ailleurs qu'en France. Et donc, partie de ce postulat, je savais que ce ne serait pas un travail qui me cloîtrait dans mon milieu. Et puis par opportunité, j'ai fait mes études en Angleterre, et par opportunité, pourquoi la finance, ça aurait pu être le marketing, ça aurait pu être... Et puis à un moment, mes notes ont fait qu'on m'orientait davantage vers ce milieu qui est particulièrement
valorisé.
Voilà, et donc de fait, bon, j'ai commencé par là, mais je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire de ça. Tu vois.
Mais quand tu dis par opportunité, j'ai fait mes études en Angleterre, on crée nos opportunités, et d'ailleurs c'est toi qui nous le dis,
ouais.
Qu'est-ce qui a fait que ça a été, parce qu'en plus ça a été Oxford en plus je crois.
J'ai commencé par Nottingham et ensuite Oxford, et en fait effectivement quand je dis l'opportunité c'est que bon, je voulais partir à l'étranger, donc ça c'est sûr que j'ai créé cette opportunité, me voilà là-bas, et puis après t'as plein de matières et puis tu sais pas vraiment ce qui t'intéresse puisque tu connais pas les matières, hein. T'as ton bac, t'as fait une prépa, t'as fait un tas de choses, mais bon à part l'histoire, les maths surtout, la physique, etc., le reste tu sais pas ce que veut dire le marketing, tu sais pas ce que veut dire une entreprise, tu sais pas ce que
c'est
veut
vrai.
Dire la finance, tu sais pas ce que veut dire la compta, enfin tout ça n'a pas de valeur concrète pour un jeune. Donc je me retrouve là-bas et puis je commence à faire un certain nombre de matières et puis finalement il faut trouver un stage. Alors le stage c'est un peu, tu réseautes un peu et puis finalement moi j'ai trouvé dans le milieu de la finance et donc j'ai appris par ce stage à découvrir le monde de l'entreprise. Et effectivement la finance m'a intéressée, mais la finance m'a intéressée parce que derrière il y avait de toute façon des êtres humains. Alors les mathématiques m'intéressait, le Excel, j'adorais Excel, donc d'ailleurs
incroyable, cette phrase est à retirer du podcast.
Mais oui, j'adorais Excel parce que d'ailleurs j'ai écrit Kilomètre Zéro sur Excel.
Non,
j'ai commencé.
Tu sais qu'on est opposés. Moi, tu sais que j'ai écrit mon essai à la main sur feuille papier avec des stylos.
Non, j'aurais adoré, mais je sais.
C'est un autre monde.
C'est un autre monde. Donc voilà, tu vois, j'ai fait copier-coller des cellules Excel, et puis à un moment, je me suis dit, il faut peut-être que j'apprenne Word. Ça pourrait m'aider pour écrire. Donc tu vois, mais tout ça pourquoi ? Parce que mon modèle de pensée est dans des cases. Mais par contre, une fois que j'ai posé le tableau, la seule chose qui m'intéresse, c'est comment on fait fonctionner des gens. Et le monde de l'entreprise était un monde extraordinaire pour ça, parce que c'est plus un monde de théorie, c'est un monde de pratique. Tu peux parler de n'importe quel produit. Le vrai sujet d'une entreprise, c'est pas le produit. C'est les hommes.
C'est vrai.
Donc, dès que tu arrivais à faire fonctionner des égos ensemble, moi, j'ai recruté des polytechniciens, des centraliens, des mines, des écoles et mines, et tu les mettais ensemble, ça ne fonctionnait pas. Non, tu comprends, moi, je viens de centrale, je ne réfléchis pas comme toi, et puis moi, je ne peux pas travailler avec lui. Et puis, une fois que tu avais lâché, enfin, tu avais concilié les égos, naturellement, les choses se passaient bien, parce que les cerveaux étaient bien faits, comme tout à chacun. Donc, c'est ça. Ma passion initiale, c'est ça. Et je suis restée dans l'entreprise des années, j'ai fait de la stratégie d'entreprise pendant des années. Pour ces éléments-là, pour la passion des êtres humains et la passion des relations humaines. Et c'est pour ça que j'ai voyagé à travers le monde pour aller rencontrer des civilisations différentes, pour comprendre que finalement, en Occident, il y a plein de bonnes choses, mais il y a aussi d'autres choses ailleurs. Et le fait de concilier ça à travers des religions différentes, des cultures, des millions de choses très différentes, comme tu viens de le dire. Tu vois, on vit dans le même pays, on est deux femmes, etc., mais on ne fonctionne pas pareil.
Tout à fait. Qu'est-ce que tu retires de ces années en Angleterre et combien de temps tu y es resté ? Parce que je sais qu'ils ont un mode d'éducation supérieure assez différent du nôtre. Qu'est-ce que tu vois, quand tu reviens en France, qu'est-ce que tu ramènes avec toi dans ton bagage ?
Déjà le fait de... Et pourtant on est en Angleterre, hein, donc on n'est pas très loin, tu vois, on n'est pas à l'autre bout du monde. Mais déjà il y a une culture très différente, des modes de vie différents, des expressions différentes. Expressions au sens de... Il y a des choses dont on ne parle pas, il y a des choses dont on parle et dont on ne parle pas en France. Donc là je commence à me rendre compte que finalement, c'est pas figé comme on me l'a appris. Je me rends compte que dans d'autres pays, ils peuvent fonctionner différemment. Ah bon, on peut dire ça chez vous ? Ah ben nous, ça se fait pas. Si tu parles de ça, ça se fait pas vraiment. Ah ben si, nous, au contraire, ça se fait pas de ne pas en parler. Donc, je me rends compte à 22, 23 ans que Il y a plein de choses qui sont différentes déjà à côté chez nos voisins. Bon, je ramène beaucoup de rigueur, parce que là, c'est le process des études, mais c'est vrai dans les écoles françaises aussi. Quand on fait des études, on a très bonnes écoles en France d'ailleurs. Moi, je voulais juste apprendre à parler anglais et surtout être libre. Tu vois, c'est le premier moment où tu quittes un peu ton cocon familial. J'avais envie de ça. Mmh. Donc, je ramène beaucoup de choses et puis je me dis, ben voilà, j'ai déjà appris. Alors, on grandit hein, quand tu passes du bac à ta prépa aux écoles supérieures. Ben, déjà, tu grandis. Hein, t'es plus au lycéen où on t'a appris depuis la maternelle qu'il fallait avoir ton bac, quoi, globalement.
Un autre monde s'ouvre à toi.
Monde. C'est un peu comme quand t'as ton permis de conduire. D'un coup,
je ne sais pas ce que c'est.
Ah, tu sais pas. Oui, mais bon, t'habites Paris, j'imagine. Donc t'as pas forcément besoin d'un permis de conduire. Mais tu vois, le sujet, c'est que voilà, t'as une espèce de liberté qui fait que je revenais avec tout ça. Donc j'avais l'impression de tout savoir en 2 ans. Enfin, je suis restée 3 ans, c'est pas tout à fait juste. On sait pas tout en 3 ans, on le sait bien après.
Ah, c'est vrai que je pense que c'est une expérience d'étudier à l'étranger qui est unique et qui ensuite ne peut qu'apporter à ta vie professionnelle. Quand est-ce que tu repars? Et j'ai envie de dire, j'imagine que toutes les cultures t'ont marqué, tu vois, mais est-ce qu'il y en a une où vraiment tu t'es dit, mais c'est fou d'avoir un mode de fonctionnement aussi différent d'une autre? Et en plus de l'accepter, parce que je trouve que c'est assez facile d'être dans la position de, en fait, c'est différent de ce que je connais, donc c'est forcément moins bien. Voilà, d'avoir l'ouverture d'esprit, en fait, d'accueillir un mode de fonctionnement qui n'est pas celui que tu as toujours connu.
Ah oui, complètement. Là pour le coup, vraiment en partant en Asie, donc j'ai fait différents pays d'Asie, mais à chaque fois, il y avait ce point commun du service à l'autre. Alors, c'est d'autant plus vrai dans des pays bouddhistes, comme par exemple la Thaïlande, enfin bouddhiste, je veux dire, dont la religion est principale est le bouddhisme, par exemple, c'est vrai au Népal, parce que l'autre est prioritaire. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font pour les autres est un honneur. Donc, c'est très différent de ce que je connaissais en Occident, où tu sais, t'es une Parisienne, moi qui vivais essentiellement à Paris, où tout ce qu'on fait n'est pas forcément tourné vers l'autre. Et là, j'ai appris que finalement, il y avait un tel plaisir à honorer l'autre, que là, je me suis pris vraiment la claque fondamentale parce que j'avais le sentiment que c'était réellement en phase avec mes valeurs. C'est-à-dire aider l'autre, le faire grandir. Mais ça allait tout simplement à je suis perdue en plein Katmandou. Et là, je demande mon chemin. J'étais à pied, puis après, on avait une voiture. Et là, il y en a un qui dit, c'est pas grave, je monte avec toi, je vais te montrer. Alors, évidemment, en tant qu'occidental, il dit, non, tu montes pas dans ma voiture, qu'est-ce que c'est ce travail, ça va... Et il me regarde, et si, et puis il monte, il va faire 1h30 pour t'amener là où tu dois aller. Et après, je lui dis, mais comment il rentre, comment vous faites? Ah, pas de problème, je me débrouille, pas de problème. Donc, et il part dans l'autre sens. Donc, pour aider l'autre, je lui dis, mais vous pouvez pas faire ça, je vous ramène, quoi, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Mais pour aider l'autre, ça, comme il dit, ça me fait ma journée que d'aider quelqu'un. C'est un honneur d'aider l'autre. Oui, c'est dans leur...
Ça nourrit leur système de valeurs, quoi.
Et voilà, pour eux, ils ont gagné une journée parce qu'ils ont pu aider quelqu'un. Et ils vous remercient même de vous avoir... Enfin, que j'ai pu te donner l'opportunité d'être aidé. Donc ça, c'est quand même... Ça, c'est une révolution dans ma vie. Au moment où je comprends ça, je me dis, mais c'est ça, quoi. C'est ça. Quand on comprend que si l'autre est un petit peu mieux qu'avant de t'avoir rencontré, mais t'as gagné ta vie, quoi.
C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faudrait, tu penses, pour que ça arrive en Occident? Parce qu'on passera jamais, ou alors pas maintenant, à une religion, je pense, majoritairement bouddhiste, quoi. Donc,
je crois pas que ce soit une histoire de religion. Je crois que c'est vraiment une histoire de personne. Moi, je le disais aussi en entreprise, j'attends pas que le dirigeant comprenne ça. J'ai moi-même été dirigeante, mais j'ai commencé en bas de l'échelle comme tout le monde. Et il faut pas attendre que ce soit les autres qui comprennent ça. Quand on comprend ça et que ça résonne pour nous, alors commençons dès maintenant. À notre échelle, c'est peut-être une toute petite échelle. Mais si déjà, le matin, je me lève et je me dis, si en écoutant le podcast de Louise, en faisant moi-même un podcast ou en partageant une idée sur un livre, etc., ça peut aider une personne, mais j'ai gagné ma journée. Mais je ne vais pas attendre que le président de la République ou le pape ou je ne sais qui prenne la décision qu'il faut maintenant aider les autres pour se sentir bien. Pour commencer. C'est ce que tu fais, je veux dire, tu fais un podcast pour aider les autres.
Ouais, totalement. Tu vois, m'aider aussi d'ailleurs, mais c'est encore mieux quand on peut allier les deux.
Et ça nous aide nous-mêmes. Et à partir du moment où tu fais du bien, ou en tout cas tu fais ton mieux pour faire du bien, à ce moment-là tu es au bon endroit et tu résonnes dans ce que tu fais. Donc je crois que vraiment, moi je pars du principe, et ça c'est une chose aussi que j'ai appris, et là je l'ai appris au Népal, c'est qu'on est responsable de qui on est et on est responsable de nos actes. On n'est pas responsable de ce qui se passe dehors. Tu sors dehors, il y a des manifestations, tu n'es pas responsable de ça dans la minute. Tu vois, il peut y avoir des casses, etc. Tu pourrais dire, dans quel monde je vis, etc. Mais On n'est pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur. On n'est pas responsable des événements extérieurs. Par contre, on est responsable de la façon dont on les prend et la façon dont on agit. Donc, je crois que c'est de notre responsabilité de ne pas attendre des autres que ça change. Par contre, le fait d'éclairer ton chemin, bah, tu t'aperçois que naturellement, les gens ont envie de te suivre.
Et comment est-ce que tu dépasses la difficulté à allier théorie et pratique ? Par exemple, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis et j'aimerais avoir l'état d'esprit qui me fait vraiment voir le fait d'aider quelqu'un d'autre comme la priorité dans mon système de valeurs et comme ce qui est le plus important dans ma journée. Mais le fait est qu'on est tellement dans une société hyper productiviste et qui n'associe pas la réussite tellement à l'aide que, en vrai, moi, je pense vraiment très sincèrement, si j'ai prévu, je sais pas, un tournage demain après-midi hyper important et que, je sais pas, quel exemple je pourrais prendre, mais sur la route, il y a quelqu'un qui cherche son chemin et il attend que je l'amène... Bah, je sais pas si je m'arrête, quoi. Parce que,
c'est normal.
Tu vois, je suis tiraillée entre, ben oui, j'aimerais bien, mais d'un autre côté...
C'est normal, parce
vidéo,
que
ce
serait
machin.
Pas responsable de ta part. T'as une équipe qui t'attend, par exemple, pour un tournage, t'as des gens qui t'attendent. Donc si à la fin, tu as passé 3 heures à amener quelqu'un et que tu laisses en plan ton équipe, et puis même les gens envers qui tu t'es engagé ouais. Ce serait absolument pas responsable d'aider une personne et de laisser en plan les autres. Ça ne serait pas responsable. En revanche, en allant à ce tournage... T'as peut-être 1000 façons d'aider les gens qui sont là. Parce que, je sais pas, il y en a peut-être un qui est stressé, parce que c'est son premier jour en tant que caméraman, en tant que... tu vas peut-être pouvoir prendre une minute pour lui ou pour elle. En disant, bah voilà, je c'est normal, tu vas la mettre en confiance, tu vas le mettre en confiance. Et cette aide-là, cette minute que tu as passée, ce sourire que tu auras tendu, plutôt que d'arriver en envoyant, tu vois, les gens balader, ouais, il faut se dépêcher, vous êtes en retard, machin. Bah, naturellement, tu vas aider à ta façon, sur ce tournage. Tu vois la différence,
ouais,
c'est que c'est pas... évidemment, on peut pas se dire, tiens, ce matin, alors j'avais plein de rendez-vous, je m'en fous, je vais aller aider le SDF à côté, je vais aller dire bonjour au boulanger. Non, ce serait pas responsable, ça, tout comme en entreprise. Vous arrivez en entreprise, c'est pareil, commençons même en entreprise. Moi, je trouve que quand on arrive au bureau et qu'on prend juste une minute, deux minutes, je dis pas 3 heures, mais pour aller voir un collègue qui a eu un problème avec son enfant, juste dire bonjour, comment ça va et comment ça s'est passé, etc. Juste un peu d'attention. Et puis même sur un dossier, je vois aussi des fois sur un dossier, on est en réunion, les gens se parlent des fois comme des chiens, mais oh, déjà, on est des êtres humains, donc on n'est peut-être pas d'accord, mais on peut peut-être expliquer sur un certain nombre de choses. Et hop, naturellement, on peut apprendre aux autres à respirer tranquillement, à se réaligner, pas être victime de toutes ces émotions qui montent, sans changer véritablement son mode de vie.
Ouais.
Et je crois que c'est ce petit 5-10% de focus sur l'autre qui change tout.
Ouais, ça demande une forme de détachement de soi. Et en fait, on vit dans une société qui est quand même hyper égoïste. Et je suis pour l'égoïsme, dans une certaine mesure, parce que je pense qu'il ne faut pas s'oublier pour les autres.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que, comme tu le dis très justement, en entreprise, parfois on va se prendre la tête, voire on va vraiment très mal se parler, alors que quand on réfléchit 2 secondes, on ne sauve pas des vies. Et en fait, c'est juste que c'est des avis contraires et qu'on ne veut pas avoir tort ou admettre qu'on a tort.
Et là, on tombe dans le propre de l'ego qui nous fait croire qu'il faut toujours avoir raison, qu'il faut toujours avoir le dernier mot, qu'il ne faut surtout pas salir son image. Et en fait, le simple fait de dire, et ça je l'apprends encore aujourd'hui aux dirigeants, je ne sais pas. Parce que j'ai pas réponse à tout. Mais ça, on nous l'apprend pas. Donc tout ça fait que bon, il faut surtout. On est un peu toujours dans le syndrome de l'imposteur, tu vois. On arrive, faut que je montre que je. Moi, quand je suis arrivée dans ma maison d'édition là, chez Erol, j'ai trouvé très inspirant les premières paroles de la directrice générale, qui je lui dis encore, elle s'appelle Maria Lavena, et elle m'a dit. Mais on parlait d'une couverture de kilomètre zéro et je lui dis, je suis pas complètement en phase. Et elle me dit, mais de toute façon, on ne sait pas. Et si on savait, on ferait que des best-sellers. Et j'ai trouvé ça très inspirant parce que finalement, plutôt que de dire tout le temps on sait, mais non, si on savait, bah oui, vous feriez que des best-sellers. Non, plutôt que de dire je sais, c'est là je ne sais pas. Donc si tu sens plus ça, on peut essayer ça et puis on va voir comment les équipes. Et je trouvais ça très inspirant et ça c'est le propre. Ça, de beaucoup de pays comme en Orient, ils agissent beaucoup comme ça, et pas beaucoup en France. En France, il faut surtout que tu expliques que tu sais tout, et si tu ne sais pas, tu fais semblant de savoir. Et là, ça amène à des comportements égotiques, en réunion, qui sont faussés. Donc forcément, ouais, mais si j'avais dit que je ne savais pas, alors là, je vais passer pour quoi ? Moi, je viens juste de prendre le poste, etc., etc. Donc, tu vois, encore une fois, je pense que le simple fait d'être plus en phase avec soi, les émotions dites négatives, que je ne crois pas négatives, bien sûr, mais comme la colère, comme la tristesse, etc., bah, peuvent s'exprimer à moindre degré et on agit moins en force contre les autres, mais plutôt avec les autres. Et quand on met son pouvoir au milieu de la table, je le dis, si chacun met son pouvoir au centre de la table et non pas sur l'autre, bah, il se passe des choses magiques. Et c'est vrai en entreprise. Hein. Et quand on dit que ça n'existe pas, moi je suis dirigeante d'entreprise, je peux dire que oui, ça existe. Alors à différentes échelles, mais ça existe.
Tu diriges quelle entreprise du coup aujourd'hui ?
Plusieurs entreprises. Alors je fais plutôt de la stratégie maintenant, donc je fais plutôt du conseil. Avant j'étais vraiment à la direction de société. Aujourd'hui je fais du conseil et j'interviens dans plein d'entreprises, différentes entreprises et de tailles différentes, même si c'est plutôt des grands groupes aujourd'hui. Et je vois que oui, ça change. Ça ne changera pas radicalement. On n'aura jamais à aujourd'hui. Un état d'esprit différent parce que ça mute petit à petit. Mais chaque personne qui mute fait muter l'ensemble de la société. Et aujourd'hui, par exemple, on parle d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'on manage aujourd'hui à l'intelligence émotionnelle. Ça n'existait pas il y a encore 10 ans. Et pourtant, c'est la base des réussites des plus grandes entreprises.
C'est vrai. Non, c'est sûr. C'est sûr. Et je pense qu'il y a un schéma à déconstruire de ce qu'est aussi un salarié performant et apprécié par la société, parce qu'on va juste se focaliser, nous, sur les résultats, alors qu'en fait, c'est tellement plus que ça, quoi. C'est un état d'esprit, c'est une façon d'être.
Et de fait, les résultats tombent.
Ouais.
De fait, les résultats tombent. Ça n'empêche pas de la rigueur, ça n'empêche pas de la technique. Hein. Il ne s'agit pas de dire on fait que de la méditation en entreprise et puis on voit ce qui se passe. Ce n'est pas ça du tout. Hein. Bien sûr que ça demande de la rigueur, bien sûr. Mais l'esprit est tellement plus clair chez les salariés. À partir du moment où c'est aligné, qu'il n'y a pas de stress, beaucoup moins de stress, mais du plaisir à travailler, à ce moment-là, les esprits sont alignés. Et qu'est-ce qui se passe ? La créativité est beaucoup plus forte. C'est bien plus rentable, hein,
ouais,
au final.
C'est vrai, c'est bénéfique pour tout le monde. Quelle est la plus grande différence que tu as observée, tu vois, si tu peux nous prendre un exemple d'un cas dans une société où ça n'allait pas entre les différents salariés ou entre les différents secteurs, et où en fait tu as mis en place un outil et où en fait tu t'es rendu compte que juste grâce à cet outil, ça procurait déjà une différence conséquente.
Un des outils fondamentaux, c'est sans doute les croyances limitantes, parce que je te disais tout à l'heure, par exemple, quand tu recrutes un centralier, un polytechnicien, ce sont deux écoles d'excellence en France. Donc tu as deux individus, deux ingénieurs qui sont excellents. Et pourtant, tu les fais travailler ensemble, et là, c'est le pugilat. Alors pas forcément tout le temps, hein, mais moi j'ai eu un cas en l'occurrence, je pense à ce cas-là, où impossible de les faire travailler ensemble, l'un ou l'autre voulait avoir raison, mais de toute façon tu viens de centrale, tu peux pas comprendre, t'aurais fait polytechnique, tu comprendrais, enfin bon, je la fais courte et à peine schématisée, mais... Ça, donc, qu'est-ce qui se passe ? On n'avance pas sur le projet, les produits sortent pas en temps et en heure, donc... Je m'en inquiète un peu quand même. Et qu'est-ce qui se passe ? Non, mais moi, je ne peux pas bosser avec quelqu'un comme ça, etc. etc. Il ne comprend pas. De toute façon, il n'a pas le cerveau. Et puis, le simple fait de les mettre ensemble, de dépasser ces croyances limitantes, que ce n'est pas parce que tu sors de centrale que tu es moins bon qu'un polytechnicien, même si sur le papier, c'est comme HEC, c'est comme Subdeco qui te mettent en trois... Vous savez, on est très conditionné au classement. Hein. Je passe, tu vois, je sais pas par quelle école tu es passé, si tu as fait des études, mais t'es dans une école et on te dit, alors là, t'es la 17e école devant un tel à Lyon ou à Paris ou je ne sais quoi. Donc toi, t'es conditionné. D'ailleurs, je vois les jeunes, moi, je vois mes neveux autour de moi là, qui sortent des écoles. Tu comprends, j'ai fait la 4e école. Ah bon, alors la 4e, oui, alors là, forcément, mon niveau de salaire... Mais ils savent pas, parce qu'on est tous passer par là. Il suffit simplement de se concentrer 3 minutes sur ces croyances-là, qui est que un problème d'estime de soi. Pourtant, on parle d'ingénieur d'excellence. Mais déjà, l'estime est un peu touchée. Donc, l'ego est touché parce que le polytechnicien dont le classement est premier par rapport au deuxième, va faire qu'il y a une espèce de complexe d'infériorité qui va faire que ça bloque. Et puis, il suffit de débloquer ses croyances, et remonter cette estime pour que le lendemain, alors là, c'est copain comme cochon, comme on dit, et puis c'est reparti pour un tour à sortir des idées d'excellence. Je crois que c'est le rôle de dirigeant, mais pas que de s'intéresser vraiment à l'ennemi numéro un qui est l'ego de tout à chacun. Et en même temps, c'est aussi ce qui fait que les gens ont envie de se dépasser.
Donc, c'est dur de trouver cet équilibre.
C'est le bon équilibre à trouver.
Ouais, c'est avoir un ego sain, quoi.
Et en tout cas, comprendre le leitmotiv de notre ego. De toujours avoir raison, d'être toujours en comparaison, de toujours montrer qu'il sait, de se comparer tout le temps. Toi, t'es meilleur, alors là, je dois le suivre. Toi, t'es moins bon.
T'arrives aujourd'hui à plus te comparer ?
Il y a un système instinctif de l'ego. On est 99,9% dans notre ego. Moi, je dis simplement que je connais mon... Enfin, je connais... Il est là. et j'y serai tout le temps, 99,9%. Mais la seconde ou deux où je mets de l'éclairage sur « tiens, là, je suis peut-être dans mon ego », eh ben, c'est une seconde ou deux de détendu. Et plus tu détends, et plus tu mets la lumière sur sa façon de fonctionner, parce qu'il fonctionne toujours de la même façon, hein, toujours en comparaison, toujours en essayant de te dire que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'y arriveras pas, toujours en t'expliquant que l'autre est meilleur, toi tu es ou moins bon, mais toujours dans, voilà, dans ces schémas, toujours besoin d'avoir raison, toujours besoin de montrer que, toujours besoin de te faire croire que la zone de confort est meilleure, etc. Donc quand tu connais finalement toutes ces actions, et il a beaucoup de visages, mais quand tu fais la liste, ben, tu te poses une seconde, tu respires et là, est-ce que je suis en train de me comparer ? Oui, ah ok, donc reviens à toi. Le simple fait de revenir, un peu comme la méditation, hein, la méditation c'est pas d'aller attendre Dieu qui descende du ciel, tu vois, c'est juste se dire, tiens, où j'en suis là ? On a 60 000 pensées qui tournent en moyenne dans notre tête chaque jour. 60 000 pensées et 80% les mêmes que la veille. Sauf quand il y a un événement important ou donc aussi bien négatif que positif. Donc ces 60 000 pensées, elles sont là, elles tournent et c'est toujours les mêmes, tu vois ? Si tu penses à ta journée d'hier, bah, tu vas te rendre compte que tu avais les mêmes probabilités qu'aujourd'hui, sauf si tu as eu un événement important dans ta vie. Donc, une fois que tu es là, ben, il faut arriver à calmer ce flux de pensées qui te raconte toujours la même histoire. Et quand tu calmes ça, naturellement, tu vois, tu reviens au bon endroit. Donc, quand tu vois que tu es en force, tu essayes d'avoir raison. Je discutais avec une personne dans le taxi, là, puis là, on est en pleine politique en ce moment, hein, entre Macron et machin. Donc, chacun son avis, son truc. Et puis là, je le vois partir, mais vraiment en flèche. J'étais à peine monté dans le taxi, mais c'est abruti, et puis machin, et le gouvernement. On sent bien que là, il est dans sa. Et puis, avec conviction, quelles que soient ses opinions d'ailleurs, avec conviction, on sent qu'il a besoin d'avoir raison parce qu'il est en train d'expliquer pourquoi il est en colère. Donc l'ego, lui, il a besoin d'expliquer pourquoi je suis triste, pourquoi je suis en colère, pourquoi j'ai peur. Alors que notre système de défense, dès qu'on le calme, on a le droit d'être en colère, on a le droit de... Mais pour des raisons dont la colère va nous expliquer, on sent quelque chose d'injuste, ou on a peur parce qu'on sent un danger, ou on est triste parce qu'on est en train de perdre quelque chose. Donc tout ça est sain, mais à partir du moment où on y met de la lumière, on peut se dire, bon, voilà, là, par exemple, je suis en colère, si je me sens en colère, j'ai le droit de l'être, mais j'y mets de la lumière, je ne suis pas obligée d'envenimer la situation tout le temps et tout le temps et tout le temps.
Ça demande beaucoup de sagesse, en fait, tout ça, je trouve.
Ça demande de la pratique. Et la sagesse vient en pratiquant, un peu comme un muscle. Tu sais, quand tu... Je sais pas, moi, j'ai essayé de me mettre au footing, j'y arrive pas bien.
Courir.
Mais ça demande, tu vois, de la pratique. Et ben, c'est comme un muscle. Quelqu'un qui dirait, ben non, moi, j'ai 10 kilos à perdre, mais moi, les salles de sport, le sport, tout ça, moi, je préfère manger des chips. Ça marche pas. Et on le sait, toi et moi, on le sait. Tout le monde le sait. Et pourtant, quand il s'agit de se mettre à la pratique et de faire un peu de sport, etc., bah, ça coûte. Bah, c'est pareil pour le quotidien. Qu'est-ce qui va faire qu'on va y passer pour de vrai, qu'on va basculer vers ça, bah, juste quand on va goûter que ça fonctionne et qu'on se sent mieux. Si tu te sens mieux dans une robe, si tu te sens mieux dans ton corps, si tu bah, t'as envie de continuer un peu à faire attention, même si ça te coûte, parce que c'est vachement plus sympa d'aller manger des chips, des glaces et tout ce qui va avec. Mais si tu te sens un peu mieux, tu vas dire, ah, finalement, le bénéfice, ah, on commence à me trouver jolie, on commence à... Et puis moi, je me sens mieux dans ma robe, je me sens mieux dans ma tête, etc. Bah, hop, le bénéfice devient un peu plus fort que... Ouais. L'inconfort.
Mais alors là où j'ai envie de te challenger, c'est particulièrement le cas, je pense, avec le sujet du poids, c'est à quel point on se sent mieux dans notre peau parce que la société a étiqueté certains standards de beauté, mm-hmm. et à quel point on est vraiment mieux dans notre peau. Et c'est là, moi, je trouve ça difficile, et je trouve que ça vaut aussi pour le monde professionnel, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui se fourvoient dans certains chemins professionnels. Parce qu'on a tellement valorisé l'image, je sais pas, par exemple des avocats ou des traders, que en fait des personnes vont poursuivre ces voies en pensant y trouver ben, une reconnaissance. Ils vont avoir le même raisonnement que t'évoques. Ils vont se dire bah ok, ça me coûte. Peut-être que là, je suis en train de travailler hyper dur sur mes textes de loi, alors qu'en vrai, j'aime pas ça. Mais bon,
ça plus me fait tard,
je serai
fière
d'être avocate et voilà. Et donc en fait, je trouve que c'est assez difficile toujours de savoir pourquoi on fait les choses et si vraiment la motivation qu'on poursuit et bonne, entre guillemets, quoi, et pertinente.
Mais t'as tout dit, tout tient dans la motivation, parce que tu vas vite te démotiver si tu les fais pas pour les bonnes raisons. Si je reviens sur cet exemple qui est très juste, d'ailleurs, beaucoup de gens, au bout d'un moment, se disent oui, ok, j'ai réussi, je gagne beaucoup d'argent, etc., mais je suis pas heureuse. Pourquoi ? Parce que je pensais vraiment qu'en gagnant de l'argent, je serais heureuse. Et pourtant, je le suis pas. Mais la conviction de départ, c'était vraiment la motivation de gagner de l'argent pour être heureux. Et tant que tu as cette motivation, tu cours après ça. Le statut, la motivation, et puis à un moment, tu gagnes de l'argent parce que tu y es arrivé. Parce que si vraiment tu te donnes les moyens, bah comme tout à chacun, tu vas y arriver. Et puis une fois qu'ils sont là, la motivation descend très très fort. Pourquoi ? Parce que mais je me rends compte que finalement, je peux me payer tout ce que je veux, mais je ne suis pas heureuse. C'est où le problème ? Alors là, c'est le trou noir. Hein. C'est arrivé à beaucoup de gens, moi aussi, hein, d'ailleurs. Je voulais gagner de l'argent pour plaire à mon père, pour être aimée de mon père, par exemple. Donc, ça m'a vraiment boostée à faire des études, à avancer. Mais lui, son système de reconnaissance était, voilà, tu valais quelque chose, même si bah, il était élevé comme ça, donc même s'il a compris que ce n'était pas forcément la bonne voie. Mais son système à lui, c'était ça. Donc, si tu réussissais, tu étais aimée. Donc, moi, je voyais qu'il aimait les gens qui réussissaient. Donc, il fallait que je réussisse pour être aimée de mon père. Puis jusqu'au moment où ben, j'ai réussi et puis je me rendais compte que finalement j'étais aimée mais pas forcément pour ce que j'attendais. Donc
c'était conditionnel.
C'était conditionnel et exactement. Et donc la motivation n'est plus la même à ce moment-là. Donc comment tu vas voir que t'es pas sur le bon chemin ? Ben tu vas le sentir quand ta motivation va plus être là. Pourquoi tu vas accepter, je dis tu, toi t'as rien à perdre, mais accepter de perdre du poids par exemple, bah parce qu'à un moment ta motivation c'est, alors ça va être par exemple pour plaire à ton mari, parce que ton mari t'a dit bon bah ce serait bien que tu perdes 10 kilos, etc. Parce que
quittez-le.
Sinon... Comment ?
Quittez-le,
ah, ça c'est sûr. Mais donc tu vas peut-être le faire au début pour ça. Et puis finalement tu vas te rendre compte que bah ça change rien au rapport que t'as avec ton mari. Et puis toi tu, bon si tu te sens peut-être un peu mieux, mais bon par rapport à, tu l'as pas fait pour les bonnes raisons. Et puis à un moment bah ta motivation va descendre. Et quand ta motivation va descendre, bah tu vas te rendre compte que finalement c'est peut-être pas de perdre 10 kilos, mais de changer ta façon d'être, de faire, tu vois. Et tout ça va être très lié à cette motivation. Et dans notre cœur on le sait. C'est-à-dire qu'au début, tu parleras avec n'importe quelle personne qui a changé, bah peut-être qu'au début, il a suivi ces études-là pour faire plaisir à un tel et un tel. Et puis à un moment, au fond, il sent que c'est pas ça. Il sent que c'est pas ça. Et puis à un moment, bah forcément, ça...
J'allais te demander, est-ce que tu aurais pu... Tu vois, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui sont peut-être en train de vivre ce moment-là ? Toi, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui si, tu vois, je sais pas vers à quel âge tu l'as réalisé, est-ce que ça a entraîné ? On va y venir, mais tu vois, à refaire... Est-ce que si jamais tu pouvais te donner un conseil pour réaliser plus tôt que là, tu es en train de poursuivre un rêve qui n'est pas forcément le tien, qu'est-ce que tu te dirais ? Parce qu'en fait, je trouve que parfois, c'est difficile d'en prendre conscience. Parce que, tu vois, je pense que... Enfin, moi, j'ai 25 ans. Bon, entre 20 et 25 ans, tu poursuis rarement tes rêves. En vrai, c'est toujours très lié à tes parents, indirectement. Mais on n'en a pas toujours forcément conscience. Donc, comment gagner du temps et réaliser plus tôt qu'à, je sais pas, 35, 40, 45 ans, qu'en fait, on n'a pas pris la voie qui nous nourrit vraiment ?
Alors ça, je trouve que c'est vraiment une très belle question et merci pour ça, parce que la réalité, c'est que la première chose qu'il faudrait se dire tout le temps, la seule question qu'il faudrait se poser tout le temps, même si on ne change pas tout de suite, c'est si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais ? Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais ? Ça veut dire quoi ? Tiens, dans ma relation sentimentale, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais vraiment ? Ah ouais, bah peut-être je le quitterai ou je la quitterai, mais bon, j'aime pas me retrouver seule, donc je suis pas prête à me retrouver seule. Très bien. Le simple fait de se dire je suis pas prête, ça a mis de la lumière sur le fait que je ne suis pas prête et tout va bien. Je suis pas forcément obligée de changer tout de suite. Tiens, dans mon travail, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais ? Ah bah non, mais c'est sûr, je serais pas avocate pour reprendre ton exemple ou... Non, qu'est-ce que je ferais ? Et juste faire une pause et de se dire, ok, j'arrête de me mentir. Pour l'instant, je ne sais pas faire autrement parce que, bah oui, je suis peut-être engagée dans un crédit, j'ai besoin d'encore un an ou deux pour finir de payer ça, j'en sais rien. Mais de le simple fait de mettre de la lumière, déjà, ça détend quelque chose.
On est aligné.
Déjà, on est aligné. Avec nos choix. Ok, pour l'instant, je me suis mise dans cette situation et je ne peux pas vraiment la changer immédiatement. Par contre, une chose est sûre, c'est que maintenant, j'arrête de mentir. Et si j'arrêtais de me mentir, bah, j'arrêterais d'être avocate, par exemple, et puis je serais libraire, pour reprendre un métier. Voilà.
On adore.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Eh bien, tout va bien. Parce qu'à ce moment-là, c'est, bah, voilà, ce sera une chose que je ferai en parallèle. Peut-être que j'irai aider des libraires. Peut-être que je prendrai un peu de temps sur mon temps en général pour faire ça. Ou peut-être que je changerai par la suite. Mais là, tout de suite, je sais que je n'ai pas forcément envie de le faire. Et le simple fait, c'est vraiment le premier pas pour enclencher quelque chose. À partir du moment où je prends conscience, j'arrête de mentir. Et là, tout va se mettre dans cette direction-là. Et pour ça, et c'est là le drame un peu de notre société, c'est qu'on fuit tellement ça, tellement on n'a pas appris, simplement se mettre en silence, parce que pour se dire, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais ? Il va falloir que j'aille connecter un truc en moi. Et c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va le trouver, c'est pas en étant dans ce monde hyperactif, exactement, que je vais le trouver. Pour ça, il faut juste accepter ce vide abyssal de se poser quelques instants. Si j'arrêtais de me mentir, mais en quelques secondes, ça vient tout de suite, hein. Si j'arrêtais de me mentir... Qu'est-ce que je ferais ? Tu sais exactement si ce que tu es en train de faire a du sens pour toi. Tu le sais au fond de toi. Sauf que se poser la question, c'est ce qui est le plus difficile. C'est pas dans les journaux, c'est pas dans les livres, c'est pas dans les conférences, c'est en soi. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a rien d'autre à apprendre que ça. Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais? Tiens, je me suis embrouillée avec une amie, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais? Tiens, bon, allez, je végète un peu dans mon travail, puis j'arrive à rien, puis j'arrive pas à parler. Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais? Ah bah j'irais peut-être parler à ma boss. Ah oui, mais j'aurais jamais le courage, elle me stresse, elle me machin. Ah, mais si j'arrêtais de me mentir, je le ferais. Et tu vois, ça réaligne un certain nombre de choses.
C'est vrai. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ça, tout ce que tu nous partages, ça incite à l'action. Et c'est vraiment ce que j'encourage, parce que quel que soit l'acte, l'action qu'on va mettre en place, ben, ça va bouger, en fait. Et moi, ce qui me tend toujours, c'est les personnes qui se plaignent de situations, mais qui ne font rien pour les changer. Et tu te dis, non, mais...
Encore une fois, c'est notre responsabilité. Ouais. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que la clé ne vient pas de l'extérieur, elle vient de toi. Ça, c'est une énorme nouvelle. Parce que si ça venait de l'extérieur, ah ben, mon destin est conditionné à mon mari, à mes parents, à ma femme, à mon boss. Ben, naturellement, je serais... obligé de dépendre de ça. La bonne nouvelle, c'est que ça vient de nous.
Et tu le montres très bien dans Plus jamais sans moi, et on y viendra, mais c'est parfois, on a l'impression que notre épanouissement dépend vraiment, en fait, pas de nous, et qu'en fait, on est dans une situation qui ne nous convient pas, mais qu'on n'a pas d'autre choix, parce que bah, on aime, par exemple, une personne qui n'est pas émotionnellement disponible ou qui est déjà avec quelqu'un, etc. Mais en fait, si, même si c'est pas forcément une décision qui fait du bien à court terme, c'est une décision qui nous servira à long terme, et on a toujours le pouvoir dessus, quoi.
Et qui nous appartient, exactement.
Ouais.
Exactement. Vraiment, on a ce choix-là. Et on a ce choix. Alors évidemment, la grande difficulté, c'est que ça nous responsabilise. Et la responsabilité, c'est un vrai problème, d'ailleurs, pour l'ego. Ouais. L'ego, c'est toujours la faute des autres. Non, mais ça va pas. Mais tu vois bien, moi, je suis arrivée au bureau, tout allait bien ce matin. Et puis alors, mon collègue m'a pas dit bonjour. Enfin, franchement... Et hop, on met notre état de mal-être du moment sur le fait que le collègue n'a pas dit bonjour, que le patron a fait une remarque, etc. Si on reste avec soi, aligné avec soi, d'ailleurs, je sais pas, tu as 25 ans, donc t'es tombée amoureuse sans doute quelquefois, et quand on tombe amoureux, alors le collègue qui te parle pas, le patron qui t'a fait une remarque, le voisin que tu supportes pas, ah ben d'un coup t'aimes tout le monde. C'est juste que ton état d'esprit a changé à ce moment-là.
Oui, c'est vraiment notre interprétation
complètement
qui change
et
notre
qu'est-ce
regard.
Qu'est-ce qu'on veut donner dans les mains des autres? Ouais. Si tu veux pas donner le pouvoir à ton patron, si tu veux pas le donner le pouvoir à ton voisin, si tu veux pas donner le pouvoir à ton mari, ben qu'est-ce qui se passe? Tu gardes le pouvoir. Et tu vois bien que suivant les circonstances, d'un coup, ça, on l'a oublié.
Et alors, parle-nous un peu, toi, de ton trou noir. À quel moment dans ta vie, tu réalises que là, t'es pas dans le carrefour que t'as envie de continuer à prendre?
Alors, moi, c'était un tout petit peu plus complexe parce que j'étais passionnée par ce que je faisais. Mais tellement passionnée que je m'en oubliais un petit peu et que, du coup, je travaillais des heures et des heures et des heures. Moi, j'ai bifurqué, j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, mais à chaque fois, j'étais passionnée. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai vendu ma dernière boîte à Dassault, donc j'avais 40 ans, c'était il y a 10 ans, j'ai 50 ans, enfin 51 ans, je crois, par là. Donc le double de toi, ce que tu viens de dire, 25 ans. Donc à 40 ans, moi j'avais vendu ma dernière boîte à Dassault et je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne voulais pas forcément reprendre à fond de cale, tu vois, je voulais plutôt prendre du temps, mais je n'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. Et donc j'ai pris le temps, parce que je considère qu'on peut faire tous les métiers, il suffit simplement de se donner les moyens. Et puis là, en en parlant, j'ai un copain qui me dit « Pourquoi t'écris pas un livre avec tout ce que t'as à partager, les voyages que t'as fait, etc. » Et je lui dis « Mes livres, moi, je sais que me servir d'Excel, pas de... » Tu vois. Et donc c'était impossible pour moi sur l'instant. Et puis finalement, il y a un truc qui a résonné. C'était pas écrire un livre pour être connu, pour ceci, pour cela. C'était juste un livre pour partager avec mes amis. Et je me dis « Bah pourquoi pas ?» Et ça a été très très difficile pour moi d'écrire un livre, parce que je venais pas du tout de ce monde-là, je connaissais aucun code, je m'étais lancée dans l'idée d'écrire un roman, hein, donc c'était kilomètre zéro. Mais je savais pas. Et je savais rien, donc quand je sais pas quelque chose, hein, moi je vais sur un moteur de recherche bien connu et je fais « comment écrire un livre ?» Alors là, comment te dire, là t'es très motivé quand c'est ça, parce que t'as « impossible, vous trouverez jamais un éditeur, 98% des livres dépasseront pas 1000 exemplaires, les éditeurs sont des escrocs », enfin bon, là t'es bien motivé pour... Et puis finalement, il y a un truc qui dépasse quand, encore une fois, t'as cette motivation de pourquoi tu veux écrire un livre. Et moi, ma motivation, c'est un mot, une phrase, pouvait faire du bien à une personne, alors j'ai raison de me lever à 4h du matin, de procrastiner, de tomber, de réessayer, de faire plein de fautes d'orthographe, etc. Mais j'ai raison de continuer et continuer et continuer et continuer. Et j'ai continué pendant 3 ans comme ça, voilà, jusqu'à écrire quelque chose qui me correspondait. Et j'ai juste offert à mes amis, je les ai réunis à la maison, alors je n'ai pas 100 amis, mais je les ai réunis à la maison et je leur ai dit, ben voilà, j'ai écrit un livre pour vous. Et point, pour moi, l'aventure s'arrêtait là. J'avais juste envie de partager un truc qui m'était cher et je me suis mis complètement à nu dans ce livre.
Et t'étais consacrée ces 3 ans à l'écriture de Kilomètre Zéro ?
Non, je travaillais, enfin je faisais aussi, enfin j'ai d'autres entreprises, voilà,
ça représentait combien de pourcents de ton temps ?
Le gros problème, c'est que passionnée par les entreprises, je passais beaucoup de temps en entreprise, mais je me levais plus tôt. Donc je me levais à 4h du matin, là où d'habitude je me levais à 6h, et puis j'écrivais de 4 à 6, et puis des fois entre deux réunions, et puis des fois je me suis dit, tiens, je vais me prendre une journée que pour écrire. Puis je me retrouvais devant mon écran, et puis là j'avais passé ma journée à procrastiner, parce que j'arrivais pas à sortir une phrase, ou alors les phrases n'étaient pas alignées, enfin bon. Bon, du coup, je dis, laisse tomber, prends pas une journée, mais pareil, parfois je partais en vacances et je me disais, non, là il y a un truc qui vient, je me mets à écrire, mais je sacrifie un peu mes vacances, donc c'est ça aussi, d'accepter, tu vois, on se dit souvent, ah bah ouais, mais toi, tout réussit, mais il y a du travail aussi derrière, et il y a de la concession, et il y a du sacrifice aussi quelquefois, mais quand on a cette motivation, alors ça, je sais garantir que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut aller vers ce qui est juste pour lui. Et ça demandera du travail, ça demandera d'accepter de tomber, parce que ça, pareil, hein, l'échec, tomber, c'est un échec. Alors ça, c'est un grand mot aussi, alors que tomber, ça fait juste partie du processus normal. Réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé, c'est tout. Tu vois, donc si t'acceptes de tomber, parce que de toute façon, tu vas tomber, tu vois, t'as lancé un podcast, t'as lancé plein de choses, au moment où t'as lancé le podcast, me dis pas que t'as jamais eu des pannes, des machins, des trucs qui fonctionnaient pas, ton truc à refaire. Enfin, t'es tombé X fois, 1000 fois, 10 000 fois. T'as pas réussi tout de suite du premier coup à faire tout ce que tu voulais. Et encore, tu tomberas. Parce que t'es dans ce processus de réussite tout le temps. Mais ça, voilà, le vrai sujet, c'est de revenir à soi. Donc moi, je me suis toujours dit, si j'ai envie de quelque chose, je le fais. Point. Et donc je le fais à chaque fois, donc j'ai changé de métier comme ça parce que le livre on m'a demandé en conférence, j'avais jamais fait de conférence, on me propose 3-4 mois à une personne qui vient du Québec, Christine Michaud, qui me dit, j'ai adoré ton livre, je te propose une scène avec Éric-Emmanuel Schmitt en première partie, toi tu fais un seul en scène de 40 minutes, je lui dis, mais jamais de ma vie, je me retrouve au Palais des Congrès de Montréal, 4000 personnes, et j'avais jamais fait une scène, donc je lui dis oui parce que je veux pas couper le flux, et je me dis, je vais y arriver, je sais pas comment encore, mais la motivation qu'il y avait derrière, si un mot, une phrase peut aider une personne, j'ai raison d'exposer mon image, de me planter, de même être ridicule. Et voilà, et après, je me suis mis à travailler pendant 6 mois avec un coach qui m'a aidé à faire de la scène, tu vois. Mais donc, c'est encore un nouveau métier. On ne peut pas réussir, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé la clé de réussir sans travailler, sans accepter de tomber, sans accepter de se relever, sans accepter la critique. Parce que dans tout ce qu'on va faire, il y a des gens qui vont adorer. Et puis, il y a des gens qui vont détester.
Est-ce que tu es déjà tombé et ça a été vraiment difficile pour toi de te relever ?
1000 fois. Tu sais, quand tu diriges des sociétés, tu es sans cesse en train de tomber. Tu dois prendre des décisions sur des choses que tu ne connais pas. Parce que si c'était connu, ce ne serait pas de l'innovation. Donc, tu vas essayer. C'est comme la recherche. Si tu dis, moi j'ai trouvé du premier coup, tu ne fais pas de recherche. Tu fais du développement, tu ne fais pas de la recherche. Quand tu diriges une société, tu es tout le temps obligé de prendre des décisions. Et beaucoup de décisions ne sont pas les bonnes. Mais pour autant, c'est ce qui fait... Il y avait une histoire comme ça, je ne sais pas si tu connais, c'est l'histoire d'un... C'est très court, hein, c'est l'histoire d'un businessman qui discute avec un journaliste et qui lui dit « Mais comment faites-vous pour prendre des bonnes décisions ?»« Ça tient en un mot, ça tient en deux mots, mauvaise décision. »« Ouais, d'accord, mais enfin bon, mauvaise décision, très bien, mais
il
faut que ça avance. Ouais. »« Comment faites-vous pour que ça avance ?»« C'est simple, ça tient en un mot, l'expérience. » Et je crois que c'est ça le sujet, c'est chaque chose. Donc pour revenir d'ailleurs à cette question initiale qui est « Oui, mais comment prendre un raccourci ? Il n'y a pas de raccourci. Parce que chaque chose va t'amener à qui tu es et l'expérience que tu es en train de vivre aujourd'hui. Donc, tout ce que j'ai fait avant m'a permis de aussi réussir tout ce que je fais maintenant. Donc, le but, ce n'est pas de chercher des raccourcis. Par contre, si on est mal, oui, se poser la question de « Tiens, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais ?» Moi, je me suis posé la question au moment où je vends ma boîte. Évidemment que j'ai été sollicité par un tas d'investisseurs pour reprendre des sociétés. Et là, je me disais, mais si j'arrêtais de me mentir, est-ce que je continuerais ? Ah non, j'ai plus envie de faire ça. Donc, j'ai plus envie de faire ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas. Et là, c'est le vide abyssal dont on parle. Un moine bouddhiste me disait, mais si tu as une tasse pleine, tu ne peux pas savoir de quoi tu veux la remplir, elle est pleine. Donc, il faut commencer par la vider, accepter ce vide abyssal, et après, tu auras la place de construire autre chose.
C'est à ce moment-là que tu fais ton voyage au Népal ? C'est quand tu revends ta boîte ?
Oui, très peu de temps après, parce que je me dis je vais tomber. J'ai appris à vivre avec 10 coups d'avance, mais je ne sais plus vivre au présent. Or, la joie, tu la connectes que dans le présent.
Mais pourtant, tu n'étais pas malheureuse.
J'étais pas malheureuse, mais j'étais dans un cycle de passion. C'est-à-dire que je vivais des passions, il y a plein de choses qui me passionnaient, mais j'étais arrivée à un stade où ça allait tellement vite qu'il fallait toujours avoir des coups d'avance et très peu de temps pour vivre le présent. Or, C'est bien. Hein,
c'est le seul moment qui existe.
Exactement. C'est une seconde après l'autre. Et puis la vie, c'est l'addition de chaque seconde. Si je suis avec toi et je suis en train de me dire, bon, alors tout à l'heure et machin et nana, ben, je suis plus avec toi et je peux plus être dans l'énergie de ce que j'ai à dire. Si je reviens à moi, ben, hop, je reviens dans ce moment. Si j'ai pas envie de faire ce podcast avec toi, je dis non. Parce que, ben, comme tu le sais, hein, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça s'arrête. Donc, si je gâche une heure de mon temps à venir faire un podcast qui m'intéresse pas ou j'ai pas envie de faire, ben, je vais gâcher une heure de mon temps. Et puis, en l'occurrence, je vais aussi gâcher le temps des gens, toi qui m'invites gentiment, le temps des gens qui vont écouter ce podcast. Donc, ça n'a pas de sens. Si je reviens à moi et j'apprends à vivre au présent, ben, tout ce que tu fais devient, a du sens. Donc, moi, je ne me suis pas retrouvée dans une situation où je me disais, tiens, j'ai loupé, j'aurais dû faire ça avant, j'aurais dû écrire un livre avant, j'aurais dû être auteur avant, etc. Pas du tout. J'ai fait ce que j'ai fait avant et ça m'a passionné. Je fais ce que je fais aujourd'hui et ça me passionne. Mais peut-être, d'ailleurs, je le dis aussi à mes éditeurs, peut-être qu'il n'y aura pas de quatrième livre. Mmh. Parce que si je n'ai pas quelque chose de profond et d'intelligent et qui est aligné avec moi à dire, je n'ai pas envie d'écrire un quatrième livre.
Moi, ce qui m'interpelle quand même dans ce que tu nous as dit, c'est que moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu nous as dit, c'est que t'as écrit le roman presque dans la souffrance et pour avoir
dans
écrit,
l'effort, je dirais, pas dans la souffrance, dans l'effort, ouais, dans l'effort.
Parce que moi, j'ai un peu ce besoin de vraiment aimer presque chaque minute d'une activité que je vais accomplir. Et tu vois, au début, j'ai écrit un essai, donc ça m'intéressera aussi de te demander pourquoi tu as écrit de la fiction et pas de la non-fiction. Donc moi, j'ai écrit de la non-fiction. Au début, j'essayais d'écrire à Paris, 2 heures par-ci, 2 heures par-là, enfin un peu comme tu décrivais, mais impossible, quoi. Pour moi, le fait de réfléchir, en fait, déjà, ça prenait une heure de me mettre dedans. Et vraiment, au bout d'un an, je me dis, là, c'est la merde, en fait. Moi, j'avais déjà signé mon deal avec l'éditeur. En fait, je crois que j'aime pas écrire et en fait j'ai pas envie d'écrire un livre, même si ça aide des gens, si en fait j'aime pas ça et qu'à chaque fois je me force et que je suis pas satisfaite de ce que je fais. Et donc je me suis un peu dit, bon, dernier espoir, je pars un mois en août écrire, parce qu'en plus au moins j'aurais pas trop de sollicitations, donc j'aurais pas de fear of missing out. Et en fait, révélation, quoi, j'écris de 9h à 20h toute la journée et vraiment un plaisir fou. Tu vois, genre, même pas envie de rentrer. Et donc, ouais, je me demande ce qui a fait que t'as persévéré, alors que j'ai l'impression qu'il y avait presque juste la mission qui te portait, mais je trouve que ça suffit pas. Tu vois, si on n'y prend pas alors, du vrai plaisir.
Alors, moi, je dirais un petit peu différemment. Ça m'a demandé des efforts, et ça me demande encore, même le troisième, ça m'a demandé encore des efforts. Et du sacrifice, parce que c'est vachement plus simple pour moi d'aller à la plage, d'aller prendre un bouquin, et puis...
De lire,
de voir mes copains, etc., que de me dire, bon, là, il faut que je mette à écrire. En revanche, le plaisir que j'ai à partager des choses qui me sont chères, qui m'ont aidé à grandir, et puis même à dépasser des choses parfois difficiles, ça, c'est un plaisir, et je jubile encore chaque seconde. Quand je reçois des messages, je reçois beaucoup de messages, je reçois entre 250, 300 messages par jour de gens à qui ça fait du bien, je me dis ça a du sens et c'est pour ça que je le fais. Peut-être que d'ailleurs, si dès le départ, tout le monde m'avait dit je comprends rien de ton livre et puis j'en avais vendu 3, peut-être que j'aurais arrêté en me disant je pense que j'arrive pas à faire passer le message que je veux faire passer, je vais peut-être essayer d'écrire un deuxième parce que vraiment ça me tient à cœur, mais peut-être pas. Donc ce qui me porte, c'est bien au-delà d'un livre, c'est de laisser un support à des gens qui peut-être pourront lire plus tard ou peut-être vont relire. Et le fait de parler, alors on peut réécouter, tu vois, en l'occurrence c'est un podcast, on pourrait tout à fait réécouter. Mais quand tu fais une conférence, tu sais très bien que les gens vont retenir peut-être 1% ou 2% de ce que tu vas dire. Donc, pour reprendre ce que tu disais, c'est oui, ça me demande un effort, mais un effort vraiment important parce que je n'ai pas une facilité à écrire. Comme beaucoup d'écrivains, il y en a des pour qui c'est viscéral d'écrire même chaque jour. Moi, pas du tout. Par contre, la motivation qu'il y a derrière est tellement forte que oui, je crois que ça vaut le coup. Enfin, je suis même persuadée que ça vaut le coup. Mmh. Et quand je vois l'engouement, je me dis, oui, je sens que ça fait du bien et donc ça vaut le coup. Parce que je le fais pas pour être romancière ou pour être connue ou je ne sais quoi. Je le fais parce que réellement, ces 3 livres font du bien.
Ouais.
Tu vois, c'est ça le sujet.
Ça t'a fait quoi de voir le succès phénoménal de Kilomètre Zéro? Parce que c'est rare qu'un premier roman marche aussi bien. En plus, comme tu l'as dit, tu avais zéro formation en la matière. Est-ce que ça a découlé tout de suite? Tu vois, moi, je sais pas. C'était il y a combien de temps qu'il est sorti exactement?
Il est sorti. Alors, moi, je l'ai sorti, moi, puisque je l'ai écrit pour mes amis. Donc, je l'ai fait une sorte de format auto-édité, même si c'était pas un auto-éditeur. Tu vois, mais j'étais chez un imprimeur et puis j'ai imprimé une centaine de bouquins que j'ai offerts. Et puis après 1000, puis 5000, puis 10 000. Mais toujours chez le même imprimeur parce que il y avait une telle demande que...
Ah, donc au début t'as vendu tes livres toi-même?
Ben en fait je les avais juste offerts en fait au
début.
Parce
qu'en vrai 5000 ça commence à être un business.
Ah ben ça commence, mais même dès le départ, si tu veux, moi les 100 que j'ai offerts, quand mes copains m'ont dit c'est génial, il faut que tu en imprimes 500, je dis ben no way, quoi, passez vos copies, moi je finis quoi.
Prêtez-le les gars.
Ouais, faites quelque chose. Ils me disent bah ouais, mais non, mais attends, on veut l'offrir vraiment. Je dis bon, c'est mes copains, ils vont pas me dire que c'est nul non plus. Hein. Et puis finalement, ils m'ont vraiment poussé, un copain m'a fait un site internet, enfin c'est devenu une petite entreprise tous ensemble. J'ai trouvé ça là plutôt sympa, moi qui venais du monde de l'entreprise, de se dire on est entre copains, le week-end c'est les sandwichs, les pizzas, les machins, et puis on fait les cartons pour envoyer les livres, parce que quand t'as des commandes qui arrivent, il faut quand même les honorer. Alors moi j'avais des stocks à la cave de bouquins, enfin, et puis quand t'as 100 bouquins, tout va bien. Quand la première commande arrive à 500, tout va bien encore. Bon, avec quelques bras pour nous aider à les mettre à la cave, ça allait bien. Et puis à un moment, il fallait en imprimer 1000, 5000, et là t'as les palettes de livres qui arrivent devant ta porte, enfin tu vois, en bas de chez toi à Paris. Et là tu comprends qu'un éditeur c'est un vrai boulot. Et on n'arrêtait pas de faire des cartons, et c'est là que les éditeurs ont commencé à s'intéresser en disant il se passe un truc fou avec votre livre, on veut vous rencontrer. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un éditeur. Donc moi, quand j'ai signé d'ailleurs avec Erol, moi je me suis dit, j'en ai vendu seul 10 000, moi je pensais que dès qu'on avait un éditeur, de toute façon, il allait s'en vendre des millions, quoi. Donc je ne me suis pas du tout rendu compte que finalement, le succès était déjà dans l'auto-édition.
Ouais, parce que c'était que du bouche à oreille.
Et c'était que du bouche à
oreille. T'avais pas vraiment de réseaux sociaux.
Mais rien. Puis, t'imagines bien, moi, comme je te dis, j'ai 50 ans, les réseaux sociaux, c'est pas forcément ma formation. Mais par contre, tout le monde s'est emparé de ça sur les réseaux sociaux. Donc on disait, mais non, t'as vu, il y a un tel qui parle de toi. Attends, alors déjà, les réseaux sociaux, bon, alors comment on crée un compte, quoi?
Je ne veux pas
non plus paraître pour une demeurée, mais enfin bon, il y avait quand même un truc un peu autour de ça. Et puis finalement, il y a eu un engouement complètement fou, quoi.
Comment tu l'expliques aujourd'hui, avec le recul et avec tous les retours que tu as eus?
Je pense que
tu n'es pas la première à écrire un livre de développement personnel. Il y en a beaucoup qui sont mauvais, moi, je trouve. Enfin, ouais, c'est...
Je pense que c'est l'authenticité, je pense. Alors déjà, parce que ça fait 25 ans que je fais quand même du développement personnel, donc ça fait 25 ans que je rencontre des peuples, des religions différentes. Donc je pense que je connais bien le sujet, en tout cas... dans ce que j'explique, parce que le sujet est très très vaste, hein, donc je ne connais pas tout le développement personnel, bien entendu, mais dans le peu que je connais, ce que j'explique, je le connais bien. Et après, je me sers vraiment des éléments de ma vie, donc 90% des trois livres sont vrais, il y a évidemment un peu de romance, okay. Mais 90% des... Donc les lieux sont vrais, les personnages secondaires sont vrais, les personnages principaux, c'est 25 ans de développement personnel, c'est 25 ans de rencontres...
Mais 25... donc c'est toi le personnage principal de...
En fait, je suis l'addition des personnages. Vraiment. Mes amis me le disent, c'était vraiment dans l'addition des personnages. C'est-à-dire que je suis aussi bien le guide que la personne qui le vit, quoi.
Ah ouais? Mais alors moi, pour prendre plus jamais sans moi, je trouve ça difficile d'être Constance et Louise en même temps.
Non, je suis Constance et Louise en même temps parce que j'ai vécu une grande partie de ce qu'a vécu Louise, j'ai vécu une grande partie de ce qu'a vécu Constance, ou alors je peux aussi me servir d'histoires vraies autour de moi que je n'ai pas vécues directement, mais oui. Finalement, comment j'aurais réagi ou comment réagit la personne et quelles émotions j'aurais ressenties. Donc je vis vraiment ce que vivent les personnages et okay. Je mets complètement à nu dans ça. C'est pas qu'une explication, d'ailleurs j'ai aucun enseignement, c'est simplement, voilà, moi ce qui m'a aidé, c'est ça, et je propose ce qui m'a aidé dans des traversées difficiles, dans des moments. On a tous vécu des moments difficiles dans notre vie, quel que soit le format ou l'habillage, finalement les émotions sont les mêmes, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, que ce soit la peur, l'émotion est la même, même si l'événement est différent.
Donc tu as été dans une relation de dépendance amoureuse?
Alors dépendante amoureuse, non, mais par contre j'ai vécu le fait d'être complètement enfermée dans mon système de vision qui est je vois l'autre comme le focus unique de ma vie qui fait que tout le reste n'a pas d'importance. C'est cette phrase qui dit que une personne vous manque et
tout est dépeuplé.
Ouais. En tout cas, pour te dire quoi, c'est te dire, tu sais, c'est au moment de ton anniversaire, t'attends un texto, t'attends un message, t'attends un appel d'une personne alors que t'en as 2000 qui t'ont envoyé un bon anniversaire. Mais c'est ça, déjà, ce focus qui est que ta vie se résume plus qu'à la situation douloureuse que tu es en train de vivre. Et ça, oui, je l'ai vécu, bien sûr.
Alors même que tu étais dans un job où tu as toujours été passionnée, tu vois, j'ai l'impression que presque moi, je suis immune de ça, parce que je me dis, j'aime tellement ce que je fais que ça ne pourra jamais m'atteindre à ce point-là.
Complètement. Même ça.
Ah ouais.
Parce qu'à un moment, il n'y a plus que ça qui compte. Pourquoi? Parce que tout ton système chimique, c'est la chimie du cerveau et les hormones qui vont avec, que tu es comme drogué ponctuellement par quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que tu peux t'en sortir, mais... À ce moment-là, ce focus est là. Et ça peut être un temps. Tu, par exemple, tu tombes amoureuse. Alors, c'est souvent dans C'est plus dans l'amour d'ailleurs que dans un événement quotidien de la vie. Mais ça peut être aussi un moment difficile de une relation, que ce soit avec un enfant, que ce soit avec un boss. Il y a des gens, c'est tellement focus finalement là-dessus que bah, ils oublient tout le bonheur qu'ils ont autour d'eux. Hein, tu travailles pas en entreprise, mais je vois tellement de gens conditionnés en entreprise qui vivent l'enfer parce qu'ils ont une mauvaise relation avec leur patron par exemple. Et pourtant ils adorent leur job, tout le focus est là et ils en oublient. Les copains, les enfants à la maison, tout ce bonheur, la bonne santé, etc. Tout ce bonheur, on parle de la même chose finalement.
À un moment, obsession, quoi.
Obsession, voilà, exactement, qui peut être ponctuelle, hein, c'est pas forcément une vie, mais c'est peut-être un mois, c'est peut-être deux mois, c'est peut-être six mois, mais pendant ces six mois, bah, t'es attiré, aspiré par un truc qui correspond pas.
Et tu penses qu'on peut en sortir juste par la volonté? Parce que comme tu le dis si bien, c'est chimique, quoi.
C'est une bataille contre une drogue même. Contre une drogue. Et oui, on peut en sortir, hein, c'est le propre. Alors là, si on parle de dépendance, quelle que soit la dépendance d'ailleurs, effectivement, il y a un moment, il faut passer par le sevrage. Et ça demande, et je ne dis pas que c'est simple, hein, ce n'est pas parce qu'on ne s'en sort pas, et là je mesure mes mots, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi, que ce soit dans l'addiction du poids, par exemple, que ce soit dans l'addiction des drogues, etc., il y a beaucoup de gens qui essayent et qui n'y arrivent pas. Donc le but, ce n'est pas de dire, ah bah, si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas de volonté. Bien sûr que non, il y a plein de moments où tu n'y arrives pas, et c'est au-delà de toi, parce que tes blessures, parce que... Oui, je crois qu'à ce moment-là, il faut pas se laisser entraîner par son ego que d'essayer de s'en sortir seul. Il faut peut-être se faire aider par des médecins, il faut peut-être se faire aider par des coachs. En tout cas, il faut peut-être se faire aider par d'autres personnes, un peu comme dans mon personnage Louise, qui finalement, Constance, se retrouve dans ce voyage à Compostelle. Et puis, elle est prise dans sa relation, elle n'a pas le choix, elle doit être là. Mais elle rencontre quelqu'un et bah, qui lui tend la main et qui lui fait voir les choses un peu autrement. Parce que le vrai sujet de ça, c'est qu'on a comme des œillères et puis on a l'impression que notre monde est là. Mais la réalité, c'est que dès qu'on enlève les œillères, ah, d'un coup, il y a un monde entier qui s'ouvre à nous et d'autres, on ne se rappelait plus.
Tu vois, totalement.
Et ça aide.
Tu l'as fait, toi, le pèlerinage ?
Oui. Moi, c'est Compostelle, c'est vraiment c'est un chemin important pour moi parce que... Alors, je ne le fais pas de A à Z à chaque fois, hein, mais je pars souvent une semaine. J'amène même des lecteurs sur Compostelle depuis 3 ans et c'est un bonheur parce que c'est un chemin très particulier de randonnée, de solidarité. Je ne parle pas de religion hein, parce que moi-même, je ne suis pas forcément dans cette religion. Enfin, je ne suis pas dans une religion d'ailleurs, mais tu vis quelque chose de très profond humainement.
Pourquoi tu l'as fait la première fois ?
Alors ben, je l'ai fait la première fois parce que je venais de finir d'écrire Kilomètre Zéro et je me suis dit, bah tiens, pendant qu'il va être en impression chez le fameux imprimeur qui m'avait aidé à le mettre, eh ben moi je vais cheminer et puis j'aurai l'impression de créer en même temps, enfin de marcher en même temps que ça se crée, quoi. Et donc j'avais besoin de me retrouver avec moi et de me dire, bah voilà, j'ai écrit ce livre, je suis fière d'être arrivée jusqu'au bout et j'ai envie que ça puisse faire du bien à quelqu'un et ben je vais marcher dans cette conscience-là. Donc j'ai commencé comme ça.
Est-ce que tu as gardé le même processus créatif pour écrire tes 3 romans où tu as changé des choses ?
Alors, le processus, je vais dire oui, qui est j'écris tout de A à Z. J'ai pas de plan. Hein. Je sais juste que je veux...
tellement pas la même façon d'écrire.
J'ai pas de plan. J'ai juste envie de partager des idées. Donc tout ce que les entre guillemets enseignements, parce que ce sont pas des enseignements, mais tout ce que j'ai envie de partager, ça, j'allais dire, je pourrais en écrire des pages et des pages et des pages. Et ça, je le sais. Donc je vais noter. Tiens, telle idée. Ça, je vais le noter. Et je vais dire voilà, ces enseignements entre guillemets vont être dans le livre. Par contre, l'histoire, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Donc j'écris d'abord les sortes d'enseignements, même les dialogues, mais je ne sais pas qui va dialoguer, c'est un homme, une femme, je sais pas du tout qui va dialoguer. J'écris tous les dialogues et j'écris tous les enseignements. Puis une fois que je suis là, je me mets devant Word maintenant, hein, j'ai quand même compris que c'était plus
sur Excel
que ça se passe, et je commence à me laisser inspirer et là je viens l'histoire. Mais je ne sais absolument pas ce que je vais écrire comme histoire au départ.
Qu'est-ce que tu fais quand t'es bloqué ? Parce que ça je trouve très dur avec les romans, moi pour m'être essayé un petit peu au roman l'été dernier. Parce qu'en vrai, je préfère lire des romans et je pense que tout le monde préfère lire des romans, c'est plus sympathique. Mais bon, quand t'as des idées à faire passer, je trouve que les essais, c'est plus limpide. Et en fait, je trouve que c'est très difficile parce qu'en effet, c'est pas comme la non-fiction où tu peux faire comme une grosse disserte finalement. Là, en fait, le fait qu'il doit y avoir une narration derrière, en fait, c'est vraiment très dépendant de ton imagination, de ton inspiration. C'est-à-dire que même les jours où t'as pas... l'inspiration divine, en fait, c'est pas grave vu que ça dépend presque pas de toi. C'est des idées que tu vas mettre en relation, que tu vas structurer. Et je trouve que c'est difficile si t'as pas... Enfin, tu vois, si t'es face à ton ordi et que tu sais pas forcément ce qui va se passer après que Constance ou que Manon là, se réveille et de son allergie, enfin...
Alors moi, c'est très simple, je me sers de la vraie vie. C'est-à-dire que 90% du livre est vrai. C'est-à-dire que les anecdotes sont vraies. Je les ai vécues. Par exemple, quand on parle de l'allergie, j'ai vécu avec... j'emmenais des lecteurs sur Compostelle, et puis un matin, il y en a une qui s'est réveillée avec ça. Donc, tout est juste. Après, je le romance, bien sûr, mais les lieux sont vrais. Compostelle, je l'ai fait pour de vrai, donc je sais en parler parfaitement. Je sais parler... D'ailleurs, c'est étonnant, parce que cet été, il y a les gîtes, là où je nomme les gîtes. On dit, mais moi... Ton livre, c'est du délire, là, mais c'est archi plein sur 5 ans, là, maintenant, les gîtes. Oui, parce que les gîtes sont vrais, ils peuvent aller dans ces gîtes-là. À Katmandou et au Népal, tout le trek hein, des Annapurna, en fait, je décris les endroits. Les endroits sont vrais, donc il y a plein de gens qui ont fait le tour des Annapurna, comme Maëlle, dans Kilomètre Zéro, et qui sont allés dans des vrais endroits, qui ont rencontré les vrais personnages. Donc moi, je dois dire que j'écris du roman, mais... La réalité, c'est qu'ils sont vrais, donc j'invente pas grand-chose, et c'est là que je pense que je suis pas du tout une romancière, et en tout cas pas du tout une écrivain. J'écris des histoires qui me sont arrivées, et je mets en scène ces enseignements. Voilà. Alors après, évidemment, j'ai pas vécu comme Louise, Constance et Manon. À trois, on n'est pas partis faire le chemin, donc c'est juste que là, j'ai envie de
tu fais un storytelling, c'est aussi ça le travail d'une romancière.
C'est de créer des situations qui me sont chères, parce que on retrouve des valeurs qui me sont profondes, comme l'amitié, comme l'amour, comme le fait d'avancer, le fait de tomber. Enfin voilà, tout ce qu'on retrouve dans mes romans, ce sont quand même mes valeurs profondes.
Et comme tu le dis, il y a beaucoup d'enseignements qui sont distillés tout au long de tes romans. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait un livre où tu partages tes enseignements, une espèce de guide de vie pourquoi est-ce que tu as choisi la forme du roman?
Parce que tu le disais très justement tout à l'heure. Ouais, moi aussi, je préfère lire des romans. Pourquoi? Parce que dans le roman, on voyage, on prend une parenthèse dans sa vie et... Je pense qu'on peut s'associer ou pas au personnage. Mais déjà, quelqu'un qui lirait un de mes romans, il peut simplement voyager et puis s'en arrêter là. Pas forcément être dans une réflexion. Ou bien ne faire que de la réflexion. Ou bien... Donc je trouve que c'est plus simple de faire passer des idées quand ça nous concerne pas. Puis à un moment, on s'en concernait. Tiens, mais attends, elle écrit... C'est ce que me disent d'ailleurs. Je suis étonnée parce que les hommes comme les femmes m'écrivent. En me disant, mais j'aurais pu être Maëlle. Un homme, enfin, souvent les hommes me disent, mais vous l'avez écrit pour moi, c'est ma vie, quoi. Et pourtant, c'est une femme. Et pareil dans Respire, alors que le protagoniste est un homme, on me dit, mais j'ai l'impression que vous l'avez écrit pour moi, quoi. Donc, on est tous dans ces vies-là. Et moi, ce que j'aime, c'est me dire, je propose quelque chose. Et finalement, on vit peut-être tous un peu la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on se reconnaît dans ces livres-là. Donc, pourquoi le roman? Parce que je trouve que c'est plus simple d'apprendre certaines choses quand on est embarqué dans une histoire. Et parfois, quand on lit un livre dans un manuel, des fois, on dit, ouais, c'est juste, là, ça me saoule, là, je vais aller lire un truc qui me détend, etc. Là, ça détend. Et puis, si on veut passer l'enseignement parce que on n'a pas envie d'y réfléchir, on se dit, ça, je vais le noter, je vais marquer la page, et puis je reviendrai peut-être dessus. Et puis, j'ai envie de voir ça, ce qui arrive à Maëlle ou ce qui arrive avec un tel. Ouais. Donc, on se laisse parfois embarquer par le roman parce que finalement, et tout le monde me dit, on lit une première fois pour le roman, et puis après, on revient sur les enseignements. Donc, je trouvais que cette forme-là était plus simple pour faire passer les...
Plus accessible, c'est vrai. Comment tu vis l'énorme succès de Kilomètre Zéro? Qu'est-ce que ça change dans ta vie?
Alors, comment je vis l'énorme succès? Déjà, je ne m'en rends pas forcément compte. J'ai eu la chance de réussir dans les affaires avant, donc je n'avais pas 20 ans quand je...
C'est pas la célébrité overnight, quoi, qui est grisante.
Non, puis en plus, ça me... Tu vois, je vis dans le sud pour la fuite. Enfin, tu vois, pour pas forcément être dedans, juste à être dans ma vie. Mes amis viennent me voir, j'ai rien changé à ma vie. Pour de vrai, j'ai rien changé à ma vie. Donc je vis pas... Peut-être que si je l'avais vécu à 20 ans, j'aurais été dans un autre système. Là, vraiment pas du tout. Je m'en rends pas forcément compte, d'ailleurs. Et ce que je veux, c'est continuer à partager des choses qui me sont chères. Aujourd'hui, je suis à un âge où on passe le relais, Et ça me va, hein. je suis très honorée de... Je trouve que vieillir est un luxe absolu, hein, puisque
tout le monde n'a pas cette chance.
Exactement. Donc voilà, je le vis en plein. Et moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est pouvoir passer le relais. Si par mon expérience, je peux aider des jeunes à créer leur boîte, à avancer, c'est pour ça que je suis dans différentes sociétés. Si, pareil, je peux aider à travers mes expériences, mes voyages, à comprendre certaines choses, j'en suis là et c'est ça qui m'intéresse.
Ok, hyper intéressant. Bon, moi, j'avais relevé quelques enseignements, justement, de Plus jamais sans moi, notamment. J'aimerais bien qu'on revienne dessus. Je me demandais quand même, à la lecture de ce roman, comment dépasser le besoin d'être comblé par l'autre? ça rejoint un peu ce qu'on se disait sur le mécanisme d'addiction, mais je trouve ça difficile. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont lire « Tu vas plus jamais sans moi », pour qui ça va vachement résonner, mais qui vont dire « Foncièrement, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire pour m'aimer sans avoir besoin de l'amour de telle ou telle personne ».
C'est exactement ça, c'est dans ta question, la réponse est là, c'est commencer par s'aimer. Le vrai problème, c'est qu'à la base, un enfant, il s'aime. Si on ne lui dit pas « tais-toi parce que tu parles trop »,« calme-toi parce que tu es excité », bon, lui, il a juste son activité, son hyperactivité, il est content, il est en joie, non, mais calme-toi, alors que lui, il a juste envie de rire. Une fois qu'on a cassé finalement un petit peu le moule de l'enfant, on arrive à en faire à peu près quelque chose qu'on... Enfin, le parent en fait, ou la société en fait quelque chose qui rentre dans la case. Mais l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il a entendu ? T'es pas aimable comme tu es, il faut que tu te calmes, il faut que tu sois plus ceci, moins cela, etc. Donc le vrai travail commence déjà à se récupérer soi-même. Qui j'étais avant qu'on me casse ? Qui j'étais avant qu'on me mette dans une boîte ? C'est par là commence le travail. Parce que sinon, on va sans cesse passer notre vie à vouloir être aimé pour ce qu'on n'est pas. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on est aimé par quelqu'un, on doute tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'on se dit « Ah ouais, mais il m'aime parce que finalement, je suis exactement celle ou celui qui veut que je sois. C'est vrai pour mon parent, c'est vrai pour mon mari, c'est vrai pour ma femme, c'est vrai pour mes enfants, c'est vrai pour mon boss, c'est vrai pour ceci. » Donc finalement, j'ai un tas de costumes. Je suis la dirigeante de, la femme de, la mère de, la fille de, etc. Mais qui je suis vraiment ? Je ne sais plus. Donc tu vois, le vrai sujet commence par retrouver qui on est vraiment. Alors bien sûr qu'il faut de l'éducation, on ne peut pas se dire « Oui, on laisse les enfants, ils font ce qu'ils veulent, et puis on ne les casse pas comme ça, c'est un peu simple hein, comme raisonnement. » Mais sans ça, c'est simplement de retrouver ce qui est en phase avec nous, pas ce qui est en phase avec nos parents. Nos parents, ils sont peut-être plus calmes que nous à la base. Ils sont peut-être plus sérieux. Moi, en tant qu'enfant, je ne suis pas sérieuse. J'ai juste envie de rire, j'ai envie de jouer, j'ai envie de... Donc c'est retrouver finalement cette joie intérieure qui va faire que à ce moment-là, on va pouvoir aller vers l'autre entier. Entier, ça ne veut pas dire j'ai zéro défaut, je me suis retrouvée, et puis les autres ne sont pas au bon endroit. C'est au contraire. C'est-à-dire, tiens, ça, par exemple, je ne l'aime pas trop chez moi, parce que je n'ai pas complètement retrouvé mon équilibre là-dessus, je vais essayer de progresser là-dessus. Par exemple, moi, je ne suis pas extrêmement patiente, et ça me gêne de ne pas des fois l'être. Des fois, j'aimerais être un peu plus patiente avec les autres. Hop, le simple fait de le savoir va faire que si ça me gêne, c'est pas parce qu'on me dit t'es pas patiente que c'est un problème. Parce que si on me dit t'es pas patiente, mais moi je me trouve patiente, j'ai pas envie de le changer. Si à l'inverse on me dit t'es pas patiente et moi je sens qu'effectivement je m'évite en impatience, alors là ça vient de me concerner et ça j'ai envie de le changer ou de le détendre un peu. Tiens, qu'est-ce que je mets en œuvre pour le mettre en place ? Donc, pour répondre à ta question, le vrai sujet c'est ça. Qu'est-ce que je mets en œuvre pour m'aimer un peu plus ? Parce que je me trouve trop grand, je me trouve trop petite, je me trouve trop grosse, trop mec, trop ceci, trop cela. Très bien, mais qu'est-ce qui serait juste pour moi ? Non pas parce que la mode veut que je sois grande ou petite ou grosse ou maigre, c'est tiens, qu'est-ce qui est juste pour moi ? Et une fois que je suis là, je peux rééquilibrer certaines choses et grandir avec ça. Donc aller vers l'autre entier, c'est avoir la conscience de qui on est, de ce qu'on a à travailler, de nos blessures. Et ça demande un peu de travail parce que je n'ai pas de recette miracle pour vous dire « Ah, je claque des doigts et en 3 secondes, t'as qu'à appliquer ça et ça va aller mieux. » Non. Ça va mettre du temps, encore une fois, comme quelqu'un qui voudrait avoir les belles tablettes de chocolat, tu vois, bien dessinées, et non pas dans le ventre, tu vas pas lui dire, c'est simple, tu fais 3 pompes et c'est bon. Non, tu vas lui dire, il va falloir que tu fasses des heures et des heures de pompes. C'est pareil pour la conscience personnelle, c'est progresser envers soi. Tu vas pas trouver l'estime de toi de 0 à 10. Si tu es à 1 ou 2, tu vas pas passer de 2 à 10, tu vas passer de 2 à 3, puis de 3 à 4, et puis petit à petit. Et là, tu vas commencer à arriver pleine vers l'autre.
C'est difficile, en effet, de savoir quoi faire, quels conseils appliquer, surtout dans la mare du développement personnel aujourd'hui. Tu donnes beaucoup de conseils, je trouve, déjà dans tes ouvrages. Ce qui peut aider aussi, c'est peut-être de nous partager ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, tu vois, toi qui as beaucoup voyagé, qui a évolué dans ce milieu-là depuis longtemps, avant même que le développement personnel ne soit à la mode, qu'est-ce que tu as vu, entendu qui te hérisse les poils ?
Alors, qui me hérisse le poil, je ne sais pas répondre forcément à ça. En tout cas, moi, ce qui m'aide énormément, c'est déjà d'arrêter de prendre pour argent comptant tout ce qu'on sait. Parce que c'est ça nos limites, c'est ça nos croyances. Alors que quand on revient à l'état d'enfant, mais vraiment, tiens, si j'arrête de croire tout ce que je crois, on m'a dit que j'étais pas bonne en français, par exemple, ou moyenne en français, moi j'étais une matheuse. Bon, très bien, alors, puisque je suis une matheuse, je ne peux pas écrire. Si je crois ça, je n'écris pas. Ouais, mais enfin, quand même, rappelle-toi, ta prof de français, tu vois, moi je devais être à 10-11 en français, donc tu vois, je n'étais pas une élite en français, hein, je n'ai pas fait cagne, hein, non, hippocagne, tu vois, donc je venais d'un monde, encore une fois, de maths. Donc, si je reste avec cette croyance-là, ben, je ne peux pas faire. Et je vais toujours me trouver nulle. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. J'ai commencé à écrire. Ah non, mais c'est nul, jamais. Et puis, finalement, eh ben, une phrase après une autre, ben, j'écris une page, puis deux pages, puis 10 pages, puis 20 pages. Et puis, à force de, je me dis, ben, finalement, j'ai écrit un livre, quoi. Donc, c'est peut-être nul. Peut-être que personne ne le lira. Mais moi, je suis quand même fière de pouvoir avoir fait ça. Donc, le fait d'essayer, de se mettre en action, tu le disais tout à l'heure, et puis d'essayer encore. Je ne dis pas que ce sera facile et qu'on ne se trouvera pas nul, qu'on n'aura pas de doute. Tout ça va arriver. C'est normal parce que c'est le début. Et il faut 1000 heures pour apprendre quelque chose et devenir un expert. Donc avant 1000 heures, et 1000 heures, c'est beaucoup. Hein. Pourquoi les enfants, ils jouent de façon excellente aux jeux vidéo? Tu vois, les enfants de 4-5 ans, ils sont extrêmement forts aux jeux vidéo. Tu te dis, ah ben c'est leur génération, pas du tout.
Ils passent
des heures et des heures et des heures à jouer. Si tu passes 1000 heures à jouer à un jeu vidéo, tu vas être aussi bon que le petit, quoi. Faut être clair. Mais ce que je veux dire, c'est que t'auras pas forcément envie de le faire parce que c'est pas ta motivation. Donc au bout d'une heure, deux heures, trois heures, tu vas dire, mais c'est quoi ce jeu débile? Tu vas le faire. Sauf que le petit, lui, il adore ça. Donc je crois que c'est ça, c'est vraiment de se mettre dans ce processus de, la première chose, c'est d'arrêter de croire tout ce qu'on croit. Je suis nulle en français, je n'ai jamais été très bonne, j'arriverai à rien. Si j'écoutais mes profs, dire, ah bah, on n'en tirera pas grand-chose. Bah, si je reste avec ça, je ne peux pas écrire. Il faut que je fasse autre chose. Le simple fait de revenir à, bon, ok, mais est-ce que c'est vrai? C'était vrai à l'époque, j'étais moyenne. C'était vrai à l'époque, mais ça ne m'intéressait pas. Moi, de lire Racine, ça ne m'intéressait pas. Alors que d'autres étaient passionnés. Moi, pas du tout. Je me rappelle au lycée, qui me parlait de Phèdre et tout. Moi, ça m'intéressait pas du tout. Et pourtant, il y en a que ça intéressait. Donc, est-ce que je suis nulle parce que ça m'intéresse pas? Ben non, c'est simplement que ça ne m'intéresse pas, donc j'y passe pas de temps. Jusqu'au moment où là, je suis en train d'écrire un livre qui me passionne. De choses qui me passionnent, des enseignements qui me passionnent, des choses que j'ai traversées et qui me passionnent. Ah, alors je suis peut-être pas la nulle de l'époque.
Faut faire vraiment attention aux vérités générales. Hein.
Aux vérités qu'on se croit.
Ouais,
voilà, exactement.
Ouais.
Dans ces croyances qui deviennent une vérité. Et ça, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a entendu. Parce que si tu avais entendu dès le départ, mais même un enfant, je le vois, si tu dis à un enfant, mais un garçon ou une fille, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle, alors que c'est tes critères à toi, bah, il va grandir avec ah, je suis quand même beau. Si à l'inverse, on lui dit, ah ben bah, non, t'es belle, mais enfin, t'as des grandes oreilles, ah ben, bah, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va focaliser sur ses grandes oreilles tout le temps, quoi. Enfin, tu vois le truc. Donc, et ça devient une vérité. Ah ouais, non, mais moi, je peux pas être belle parce que j'ai des grandes oreilles, ou j'ai des grands yeux, ou j'ai les yeux marrons alors qu'il faut avoir les yeux verts, ou les yeux bleus. Enfin, tu vois, tout ça va faire que on grandit avec ça. Je serai jamais belle parce que pour être belle, ben, un mannequin, il fait 1m80, tu vois, par exemple. Ah ben donc, je serai pas belle. Mais non, mais il y a des mannequins qui ont réussi et qui font pas 1m80. Donc, tout est possible à partir du moment où on casse ses croyances. Et ça, je crois que c'est le premier pas.
Ouais, la déconstruction. On est aligné. J'ai relevé un des enseignements que tu partages. Pour chacune de nos aspirations et chacun de nos rêves, il y a en moyenne 36 000 possibilités. Je trouve ça génial déjà de s'en rappeler, de le savoir. Ce qui peut être difficile, notamment voilà, pour des personnes je sais pas, qui sortent de leurs études, c'est comment choisir finalement? Comment dépasser parfois cette peur de mal choisir, de mal faire de... Tu vois, parfois en fait c'est le choix qui est plus difficile qu'autre chose.
Moi, je ne crois pas qu'on puisse choisir et qu'on puisse se tromper. On va vivre une expérience. On va vivre une expérience qui va nous amener à une autre expérience. Donc déjà, l'erreur, hein, pour revenir sur ce mot de l'échec qui est fondamental dans notre société, tu vas en école élémentaire, là, au CP, etc., on te montre tes fautes. Hein. Tu fais une dictée, tu as 10 fautes. On ne dit pas que tu as écrit 250 mots bien, on te dit que tu as fait 10 fautes. Donc évidemment, tout est basé là-dessus. Notre schéma à nous, c'est je vais me tromper, je vais faire une erreur. Tu vas forcément faire une erreur parce que tu es en train de réussir. Si tu ne fais pas d'erreur, c'est que tu n'es pas dans un processus de réussite. Donc tu vas faire des choix, et puis ces choix vont t'en amener à d'autres, etc. etc. Mais tu ne peux pas faire d'erreur. Tu ne peux que vivre une expérience qui va t'amener à ça. La seule erreur que tu peux faire, c'est celle que tu fais à répétition. Tu ne tiens pas compte du fait d'être tombé, et donc tu vas faire la même erreur, et puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Bon, bah, très bien, tu vas la faire 3 fois, et puis peut-être qu'à un moment, la quatrième fois, tu vas dire, bon, non, là, ce coup-là, je ne la fais plus, parce que c'est important pour moi que je la fasse pas pour passer par là. Une fois qu'on en est là, ben, ça dédramatise beaucoup de choses. Une fois que tu sais que l'échec, comme la société le dit, bah, c'est finalement qu'un processus. Tu vois, moi, quand j'ai écrit ce livre, Kilomètre Zéro, il était auto-édité. Et donc, à un moment, je me suis dit, je vais pas y arriver à faire des cartons. Donc, je suis allée à la FNAC, parce que j'allais souvent à la FNAC pour acheter mes livres. Et puis, je tombe sur le libraire que je connais bien. Je dis, ah, tiens, j'ai écrit un livre, est-ce que tu veux bien me le mettre Voilà, je te le laisse. Et puis, si tu les vends. Et puis, moi, j'étais assez naïve, hein, quand même.
Mais c'est clair.
Dans ce monde-là, moi, je.
La distribution, ça se passe pas
voilà,
comme
la distribution,
ça.
J'amène des cartons, puis je te laisse mes livres. Et puis, ah, il me dit, non, mais c'est pas possible. Ça se passe pas tout à fait comme ça. En fait, il faut être référencé. Enfin, il m'explique tout le processus, machin. Je dis, ouais, d'accord, mais enfin moi j'ai pas d'éditeur. Il me dit ouais, il te faut un éditeur absolument. Je dis oui, non, mais enfin là c'est pas l'idée, tu vois. J'en ai 5000 à des, tu vois, et je fais des cartons. Tu veux, si c'est à la FNAC, ça ira plus vite, quoi. Et c'est non, parce que j'ai pas d'éditeur. Donc je vais voir le responsable, et c'est non, parce que j'ai pas d'éditeur. Puis je vais voir le supérieur, mais c'est non, parce que j'ai pas d'éditeur. Et puis c'est toujours la même réponse. Je dis non, bah non, vous n'avez pas d'éditeur, on peut pas vous référencer à la FNAC. Puis un jour je suis allée voir un peu plus haut, et puis là j'ai dit bon, je sais ce que vous allez me dire, j'ai pas d'éditeur, donc c'est pas possible. J'ai bien compris, mais je vais demander de lire, et puis une fois que vous l'aurez lu, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ah non, mais attendez, si vous croyez que j'ai le temps de lire tous les machins, je dis écoutez, je vous laisse, je vous l'offre, vous en faites ce que vous voulez. Et, mais avant de me dire non, j'ai pas d'éditeur, comment ça ? Je la fais courte. Et puis un jour, ce type très très haut placé à la FNAC me rappelle et puis me dit bon, écoutez, j'ai pas lu votre livre, mais ma femme l'a lu. Elle m'a dit si vraiment je le référençais pas, il allait se passer quelque chose dans notre couple. Alors il faut qu'on se rencontre. Et j'ai pu me faire référence à la FNAC comme ça. Alors j'étais pas en tête de gondole, etc. Mais on pouvait acheter mon livre à la FNAC. Il était référencé à la FNAC et ils en ont écoulé pas mal. Avant même d'avoir trouvé un éditeur. Alors je dis pas que c'est le bon chemin, hein. Aller chercher un éditeur, c'est beaucoup plus simple. Ça se fera plus facilement, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a un non, c'est pas parce qu'il y a... J'ai eu 33 noms avant d'avoir un oui. Alors moi, j'ai appris une chose, c'est qu'on tombe en moyenne 2000 fois pour apprendre à marcher. 2000 fois, on est tous tombés de tout notre poids 2000 fois. On tombe, on se relève, on retombe de tout notre poids, on se relève. Enfin, c'est terrible de tomber de tout son poids. Imagine un peu le truc, de toute sa hauteur, on n'est pas haut, mais enfin de toute sa hauteur, on tombe et on se relève. Et j'ai appris qu'il fallait, pour apprendre à marcher, tomber en moyenne 2000 fois. Alors moi, c'est mon niveau maintenant. Moi, je me suis fait refuser 33 fois mon livre à la FNAC. Et ben, tant que je suis pas arrivé à 2000, je réessaye. Et tant qu'on réessaye, ben, y a un moment, ça passe. Mais il faut pas lâcher, il faut tomber, et tomber fait partie de ce processus. Le non fait partie de ce processus de réussite.
Mais donc, comment faire la différence entre la persévérance et l'acharnement ? Parce qu'en vrai, si t'avais persévéré et qu'en fait, je sais pas, t'avais jamais rencontré ce mec-là,
c'est pas ça, ça qui
être,
m'a
ça
fait
peut, ça peut être aussi du temps perdu que t'aurais pu placer ailleurs.
Et probablement que ça en est, parce que si j'avais utilisé cette énergie à aller trouver un éditeur auquel je pensais même pas, parce que je pensais même pas me faire éditer, je voulais juste me dire, bah tiens, ça va être plus simple, parce que j'avais même pas fait la relation qu'un éditeur pourrait vendre mon livre tout seul, enfin, par eux-mêmes, sans que moi j'ai à faire des cartons, etc. Pour répondre à ta question, j'aurais pu prendre ce temps et puis me dire, ah bah tiens, je vais peut-être aller plutôt m'acharner sur la FNAC, je vais peut-être aller chercher des éditeurs qui vont vendre mon livre. On pourrait se dire, bah ça aurait été beaucoup plus court pour toi. Peut-être, mais peut-être pas. Parce que finalement, il s'est vendu, et c'est les éditeurs qui, à un moment, se disent, bah, attends, il se passe un truc avec votre livre. Peut-être que si j'avais été les voir, ils m'auraient dit non, là, c'est pas le parce que ça n'aurait pas été le moment, ils avaient peut-être trop dans leur ligne éditoriale. Peut-être que ce serait tombé dans les mains de quelqu'un à qui ça n'aurait pas plu. J'en sais rien. Et d'ailleurs, je le sais quand même, parce que j'avais un copain qui l'a fait un peu en douce, et j'ai eu des refus de deux ou trois maisons d'édition qui se mordent un peu les doigts aujourd'hui, parce qu'ils me demandent aujourd'hui, mais c'est pas grave. Le vrai sujet, c'est qu'à ce moment-là, c'est pas parce que c'est une mauvaise maison d'édition. C'est parce qu'à ce moment-là, ça rentrait peut-être pas, ou la personne qui l'a lu, etc. Et moi, pendant ce temps-là, je m'acharnais sur autre chose. Donc finalement, ça m'a amené à vendre d'une certaine façon, et le chemin n'était pas plus court ou moins court, c'était le chemin. Donc ouais, je ne crois pas au fait qu'on se trompe de voie. N'importe qui, et je pourrais dire au micro aujourd'hui, oui, j'aurais peut-être trouvé un éditeur plus tôt, mais est-ce que ça m'aurait servi ? Est-ce que j'en serais là aujourd'hui ? J'aurais peut-être signé avec un autre éditeur qu'Erol, est-ce qu'ils en auraient fait le même succès qu'Erol ? Je ne sais pas le dire. Mais en tout cas, les planètes s'alignent au moment où elles doivent s'aligner, au bon moment. Et pour ça, bah, c'est peut-être pas 6 mois avant, c'est peut-être pas 1 an avant, c'est peut-être pas 10 ans avant, pour boucler avec ce que tu disais tout à l'heure. Peut-être que si j'avais écrit il y a 20 ans, j'aurais eu zéro succès. Et peut-être que oui, j'en sais rien. En tout cas, je sais dire qu'aujourd'hui, la femme que je suis devenue, même pour écrire un livre, pour le promouvoir, pour parler, pour etc., bah, tout mon passé m'a énormément aidée à être qui je suis en tant qu'écrivain aujourd'hui. Et pourtant, c'est des métiers complètement et radicalement opposés. Mais toute cette expérience de vie fait qu'aujourd'hui, je peux parler à des dirigeants de maisons d'édition en étant complètement à l'aise, là où je ne l'aurais sans doute pas été si je n'avais pas eu ce parcours avant.
Ouais. Hyper intéressant, très belle expérience et très beau partage. Écoute, j'ai quelques dernières questions pour toi. Déjà, vu qu'on a parlé de livres pendant cet épisode, mais surtout des tiens, est-ce que tu aurais une ressource, ça peut être un livre, ça peut être autre chose, mais un livre, c'est toujours bon à prendre, à nous recommander, tu vois, quelque chose qui t'a marqué, que tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent?
Ah ben j'ai une Bible, hein, vraiment j'ai une Bible, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui est un livre tout petit,
ouais.
Mais je pense que je n'ai pas assez d'une vie pour le lire, donc j'y reviens chaque jour.
D'accord.
Une phrase, et vous pouvez fermer le livre et réfléchir pendant des heures. Pourquoi il me touche à ce point? Parce que bah déjà l'énergie me touche terriblement, mais c'est pas par là. Quelqu'un qui commencerait dans le développement personnel, c'est pas le livre que je lui conseillerais.
Ouais,
moi, le livre qui m'a, là pour le coup, si je devais élargir, ça c'est vraiment ma Bible, hein, Le pouvoir du moment présent, mais le livre qui m'a mis le pied à l'étrier il y a à peu près 25 ans, c'est La prophétie des Andes de James Redfield, qui est un roman, enfin simple à lire et en même temps très profond. Et là, je me suis dit, et c'est un roman de développement personnel, hein, donc je le conseille vraiment quand on veut commencer, parce qu'effectivement, on ne peut pas commencer le développement personnel en se disant, je prends un truc hyper concentré et probablement Eckhart Tolle, c'est un peu concentré, donc il ne faut pas se décourager. C'est comme si moi, je me mettais à la religion catholique et qu'on me dit, bah, lis la Bible et puis ça ira mieux. Tu vas comprendre ce qui se passe. Bah, c'est un peu indigeste quand même au départ. Tu vois, ou lit le Coran, enfin voilà.
Ouais, moi je pense dans mon rayon au deuxième sexe de Simone de Beauvoir, c'est pas le livre qu'il faut commencer, c'est voilà, le féminisme. Hein.
Bah, c'est ça,
le
Phèdre de Racine, hein, voilà. Que j'ai relu du coup, forcément, mais c'est pas celui que je conseillerais à celui qui a jamais lu de sa vie, quoi.
Ouais,
donc,
ouais.
Donc voilà, ma Bible c'est celle-là, mais par exemple, La prophétie des Andes, c'est un très très beau roman.
Okay,
et voilà.
Je mettrai les deux dans les notes de l'épisode, avec les tiens que je conseille à toute personne, aguerrie ou non du développement personnel. Je pense que ça peut vraiment résonner en chacun et chacune d'entre nous. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre?
Oh là là, tellement de gens. Alors, qui je pourrais dire? Je vais te conseiller, tu sais quoi? Une femme très inspirante qui est au Québec, Christine Michaud.
D'accord.
Je vais te conseiller Christine, mais effectivement, comme c'est sur place peut-être, alors elle vient régulièrement en France, mais sinon, Laurent Gounel aussi?
Oui, ok, tout à fait, j'ai Laurent beaucoup Gounel. Aimé L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel.
Laurent Gounel qui est aussi, donc voilà, peut-être ces deux personnes-là, mais tellement d'autres. Donc si ça devait être un Français, peut-être Laurent Gounel.
D'accord,
et sinon, on a l'option Christine quand elle vient en France.
Et je vais te poser la question signature du podcast, ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
Oser, avoir du courage, et le mot courage prend sa racine dans le cœur, on devrait dire courage en fait. Donc le pouvoir de sa vie, c'est oser être soi-même.
C'est beau, ça fait sens après avoir lu tes ouvrages, ce thème du courage revient beaucoup et en fait ça m'a fait réaliser que peu d'ouvrages en parlent. Tu vois, c'est pas une notion qu'on est tellement encouragé à rechercher, tu vois, ça reste très abstrait et tu la rends concrète. Mais bref, je vais pas me relancer dans un épisode. Merci beaucoup Maud.
Merci à toi Lise.
C'était Louise. Hyper chouette.
Et en plus tu incarnes le personnage de mon...
N'est-ce pas ?
J'adore ce prénom. Et
très flattée d'être ce personnage finalement,
oui,
qui me correspond très bien.
T'as la maturité de cette femme de 50 ans qui finalement n'en a que 25 en fait de moi.
Je
merci vraiment à toi.
Et juste pour les personnes qui nous écoutent et qui maintenant veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige?
Sur mon site, par exemple, www.maud-ankaua.com.
Super. Et pour ceux qui ont la flemme de se rappeler comment elle l'appelait, je le mettrai dans les notes du podcast, comme ça vous avez juste à cliquer. Merci encore, Maud.
Merci
au revoir.
À toi, Louise.
J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story @maudankaua et @mybetterself et à envoyer un message à Maud si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.